Oh, tu m'énerves. T'as tout le temps regardé la télé, tes matchs de foot, là. Oh, j'en peux plus, là. Je suis littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute cette espèce de barbare qui court après la balle.
Des barbares ?
Oui, ce sont des barbares.
Des beaux athlètes comme ça ?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti, c'est un départ qui... Oh là là.
Aïe, que se passe-t-il?
Ouais,
serait-ce à nouveau Satan Dimitri?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
Voilà.
Pas au gazon,
je prends l'air.
Oh, get back, get back, get back.
Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.
Eh bien, bien le bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Ta Mère en Short, nouvel épisode, énième épisode de cette émission consacrée au sport, bien sûr local, régional, voire national et international, dans laquelle vous entendrez des gens passionnés, des gens qui sont complètement convertis, mais aussi des professionnels du milieu. Nous aurons, comme à l'accoutumée, comme nous aimons à le faire dans cette émission, une association, un club sportif de l'agglomération qui viendra échanger, présenter un peu sa structure. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut déjà le préciser, ce sera la section ALM amateur d'Evreux. Voilà, section basket ALM. D'ailleurs, bonjour à Antoine Dufy qui en est la voix aujourd'hui, même si on risque d'avoir le président au téléphone incessamment sous peu. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous.
Alors Antoine, on le tutoiera, on le connaît un petit peu, puis on aime à tutoyer dans cette émission, mais voilà, c'est vrai qu'il y a une affinité particulière me concernant. En tout cas, je suis ravi de le recevoir. Nous avons aussi l'habitude de mener cette émission à deux, j'avais oublié de le préciser, mais vous êtes habitués, même s'il était tout seul la semaine dernière, c'est l'ami Guy Moquet qui retrouve son acolyte en ma personne. Bonjour à toi, ami Guy Moquet.
Salut, tu m'as manqué, Deuz.
Merci, content de te retrouver aussi. Et puis, notre fine plume, le célébrissime, l'unique, l'illustre journaliste sportif de la ville d'Evreux et de ses alentours. On pense bien sûr à Philippe Guinchard de leur info La Dépêche. Bonjour à toi, camarade.
Salut les gars.
Voilà, on reviendra forcément sur la rencontre de l'ALM qu'on a vue ensemble vendredi dernier à Salle Omnisports. Nous allons y revenir forcément. Et puis nous entendons d'ailleurs un court extrait de la conférence de presse d'après-match. Juste un extrait, puisque je vous rappelle que mercredi midi, dès 12h30, vous entendrez l'intégralité de cet échange avec Rémi Vallin. Voilà, ce sera dans quelques instants. Mais avant, et comme à l'accoutumée, hein, Migui Moquet, nous aimons à faire un tour de table sur les faits marquants pour vous, messieurs, de ce que vous avez retenu de l'actualité sportive, quelle que soit la proximité ou la distance. Philippe, est-ce que toi, tu as quelque chose qui t'a marqué depuis une semaine là, sur l'actualité sportive nationale ou locale?
Ça, c'est une bonne question. J'ai fait pas mal de trucs cette semaine, mais qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Bof, non, pas grand chose en fait. Il y a Federer qui s'est fait étrier en Australie. Là, c'était un peu curieux parce qu'on avait vanté sa millième victoire il n'y a pas longtemps. Là, je pensais qu'il allait faire quelque chose de bien et finalement, voilà, ça le remet peut-être un peu plus en difficulté. J'ai regardé hier soir en différé un match que j'attendais pour une fois. J'ai dit, tiens, je vais remettre un match de foot. J'attendais pas mal du match de l'opposition entre Saint-Etienne et Paris. Je l'ai regardé j'ai dû le regarder en 30 minutes en accélérant tout tellement c'était chiant. Donc je pense que j'étais déçu. Et je n'ai pas regardé, je vous demande de ne pas me donner le résultat, le match entre Limoges et Nanterre. J'ai volontairement essayé d'occulter.
Ah, voilà, mais ça va être dur de pas en parler là.
C'était bien, je me doute que
a priori, oui.
Ouais. Bon, ouais. On va essayer de pas en parler. On va faire. Mais par contre, j'ai appris que Joseph Gomis avait pris pour 3 semaines d'arrêt, là, ouais. Une petite blessure. Mais voilà. Bon, non, mais sinon, rien de transcendant, on va dire, cette semaine.
Ami Antoine?
Moi, j'ai pas noté grand chose non plus.
Il a pas la télé, Antoine.
Moi, j'ai pas la télé, c'est ça. Donc, ça limite forcément. Je m'en tiens aux journaux, qui sont des fois très, très bien tenus.
Merci. c'est pas pour moi.
Non, moi j'aime bien la continuité de Gobert en ce moment. Voilà.
Rudy Gobert, voilà, on rappelle, joueur international français qui évolue en NBA du côté de Utah.
Exactement.
Voilà, et qui est en mode double-double, hein, plus de 10 points, plus de 10 rebonds à chaque rencontre. en tout cas très régulièrement. C'est vrai qu'il fait un gros début de saison. Hein.
Gros début, et puis il confirme, quoi, voilà, après le championnat du monde. Voilà.
J'ai regardé hier, il y avait Intérieur Sport qui était rediffusé, justement, je me suis arrêté avant, à la fin d'Intérieur Sport, là j'ai regardé l'Intérieur Sport sur le Mondial, où justement, où t'as Gobert qui fait un match exceptionnel, enfin notamment une deuxième mi-temps exceptionnelle contre Gasol,
contre Espagne, ouais.
les deux frères Gasol et, comment il s'appelle
Marc, Marc Epo.
Et Ibaka.
Ah, Ibaka, voilà. Et donc c'était extraordinaire. Et avec tout ça, une réelle sobriété, mais quand tu vois, il met un contre qui est super bien filmé, parce qu'on le voit vraiment une verticalité vraiment impressionnante. Et c'est bien de voir un parce que c'est un jeune, quoi, que tu penses qu'il va se faire bouffer. Tout le monde le prépare en disant tu vas subir, et puis finalement il s'est lâché complètement.
Ouais, il leur tient plus que la dragée haute. Ouais, en tout cas, comme quoi, des fois, des championnats du monde ou des championnats extérieurs ou championnats dans lesquels tu évolues tout au long de la saison avec ton club, peut permettre d'être déclencheur, et je pense que ça a été son cas le concernant. Bah tiens, on va rester dans NBA, messieurs, moi, si vous me permettez. Je vais revenir quand même sur la performance de Klay Thompson. On a mémoire que du côté de Golden State, en NBA toujours, il y avait des shooters, hein, parce que je crois qu'Antoine, tu partageais ça avec moi, les Run TMC, c'était Tim Hardaway, c'était Mitch Richmond, c'était Chris Mullin à l'époque. On était dans une pratique du basket tout feu, tout flamme, on jouait tout pour l'attaque, et c'était à l'époque, dans les années 90, incroyable. Et bien maintenant, il y a un duo, les Splash Brothers, qui sont surnommés ainsi. Stephen Curry, pour moi, l'un de mes chouchous de la NBA, un génial meneur, même si c'est pas totalement un meneur, mais c'est son poste. Voilà, il peut jouer un et deux, mais il est accompagné Klay Thompson. Et Klay Thompson, c'est deuxième ou troisième saison NBA seulement, ou peut-être troisième. Le monsieur, si vous n'avez pas encore entendu sa performance, il faut quand même qu'on s'attarde dessus. Antoine, on en a parlé en micro, mais c'est énorme. Juste, je vous lis ça. Le mec finit avec 52 points, son record en carrière. Donc ça, bon, déjà, c'est énorme. Passer la barrière des 50 points, c'est quand même pas très commun. Mais on a eu des joueurs qui n'étaient pas forcément illustres, qui l'ont déjà fait. On peut se dire que des fois, l'équipe a joué pour elle, voilà, un jour comme un autre. Voilà, le mec était capable de performance. Là, en l'occurrence, lui, c'est quand même un acteur régulier des 25-30 points avec son acolyte qui est Stephen Curry. Sauf que là, dans un quart-temps, il a tout explosé. Il a mis pas loin, que je vous le dise, 37 points. Écoute l'histoire, c'est record à NBA déjà. 37 points avec un seul et même joueur dans un carton. Et la statistique incroyable, c'est qu'il a 100% de réussite. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris un shoot en trop. Alors que déjà, je veux dire, un 8 sur 10, un 10 sur 12, un 10 sur 15, ça aurait été magique. Non, non. Le mec fait un 13 sur 13 avec un 9 sur 9 à 3 points dedans, dans ce carton. Incroyable. La performance de Klay Thompson, c'était il y a 2-3 jours. Il a écœuré les Minnesota Timberwolves, qui étaient les Sacramento Kings, qui étaient l'adversaire du jour. Voilà, il fallait s'attarder là-dessus parce que c'est quand même incroyable la réussite, la magie de ce sport. Et parfois, quand il est réalisé ainsi, vraiment, on peut retrouver les images sur net. Je vous invite à aller voir Klay Thompson. C'était incroyable du côté de Golden State. Voilà.
Ouais, c'est fort, hein. 9 sur 9 à 3 points.
13 sur 13 en plus dans le shoot.
Je sais pas si vous vous rappelez du match pour moi mythique de Jordan contre les Trailblazers.
Avec les 6 à la mi-temps.
Avec les 6 à la mi-temps, ouais. Où à un moment il ouvre ses mains et dit bah voilà. Je pense que lui, c'est même plus les mains qu'il avait d'ouvert. C'était la salle entière qui devait dire bah là,
non, mais c'est énorme.
On ferme, on le laisse.
Ouais, ils sont debout tout le temps.
Ouais. On cite souvent les commentateurs ou journalistes brésiliens quand il y a du foot qui s'emballent et tout. Moi j'ai vu les images en mode américaine.
Ouais, il devait être cinglé, ouais.
C'est ouf, ouais. C'est énorme. Bon, alors là, je peux vous dire que là aussi, il y a des choses à apprendre ou à vivre dans le commentaire.
Il faut voir les conditions parce qu'il prend quelques tirs quand même.
Ouais, c'est énorme.
Avec deux ou trois mecs sur le paletot.
Parce que les gars, ils n'ont qu'une envie. Ils savent qu'il va prendre les shoots. C'est de le stopper. Ouais. Ah non, il rentre tout.
Quel carton il marque ?
Troisième.
Ah bah, et donc 37 points en un carton, ça veut dire.
En 10 ou 12 là-bas.
Plus d'un shoot toutes les minutes, quoi. Enfin, plus d'un panier à rentrée toutes les minutes.
Ouais, quasiment.
C'est énorme.
C'est plus que ça.
Oui, c'est 10 minutes un carton.
Non, mais 37 points. Et je veux dire, un joueur sur l'ensemble d'une rencontre, quand il met 37 points, déjà, c'est rare. Et là, tu les mets en 12 minutes.
Mais l'équipe marque combien de points sur les 37 pendant ce carton?
Le score final, tu veux?
Pendant le carton, tu sais, pendant le carton.
3 de plus, 40.
Ah oui, d'accord, c'était vraiment, c'était 100% pour lui, quoi.
Voilà. 37 sur 40.
Ouais. Il commence pas à mettre dedans, il doit rester que 10 minutes ou quelque chose comme ça.
Ouais,
il doit les mettre quasiment en 9,
9,
9, 30.
En 3 minutes, bien vu, Antoine, c'est ça. Ouais.
En 9-30,
donc énormissime performance.
C'est un petit peu le Glenn Causé de.
Ah, on va y revenir.
Ou alors c'est notre Klay Thompson.
Et puis avant Guy Moquet, que tu reviennes, toi, sur tes. Alors moi, c'était l'événement marquant, je pensais qu'un de vous deux allait le relever. Je le fais, c'est le plus important. Une chose, ce week-end, et un mini débat en même temps que j'ai vu cette rencontre de sport de haut niveau, qui était en fait un match de poule de Coupe d'Europe entre deux équipes françaises, Toulouse et Montpellier, enfin Montpellier et Toulouse, rugby. Puisqu'on s'est joué à Montpellier, donc merci en rugby. Et je voudrais juste revenir sur cette rencontre. Donc, bon, victoire de Montpellier, 27-26, qui prive, en fait, Toulouse, qui était à 4 victoires avant cette rencontre, sur 5 rencontres partagées dans cette poule, qui prive de Coupe d'Europe. Alors, moi, je suis à 100%, bien sûr, pour l'équité sportive. À un moment donné, on joue, et puis bah, c'est plus méritant qu'il l'emporte. Sauf que, comme je l'ai pu le lire dans certains tabloïds anglais qui hallucinent de la situation, en Angleterre, il aurait été très certainement tout autre, cette rencontre entre deux clubs anglais. À savoir, on mouille le maillot, mais à un moment donné, peut-être qu'on on y va plus cool, parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Il faut savoir ça aussi, pardon, je précise pas tous les éléments. Montpellier n'avait pas encore gagné une rencontre, avait pris que des roustes. Bon, on était handicapés, François Trinduc, là, qui va revenir, c'est tant mieux, mais bon, là, il y a eu un changement de coach. Mais je ne veux pas sous-entendre, je ne voudrais pas qu'on imagine que j'aurais préféré... Mais à un moment donné, est-ce que ça aurait pas été plus juste aussi? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue sur la situation? Moi, franchement, j'étais peiné. Alors, Toulouse, c'est pas le Toulouse flamboyant qu'on connaît. D'ailleurs, là, c'est sûrement la saison de Troupe-Rouille Nouvelle, on pourra en reparler. Mais là, sur cette rencontre qui prive quand même un quatrième club français, ça aurait pu être génial quand même en quart. Voilà.
Alors, moi, j'ai pas vu le match, mais pour suivre un petit peu Montpellier, le rugby en général, et notamment Montpellier, parce que j'aimais beaucoup Galtier. Qui est mis au placard de façon, on en a déjà parlé dans cette émission, un peu de façon, je juge, irrespectueuse, mais bon, c'était pas le sujet de la discussion. Ce que je veux dire, c'est que Montpellier avait sans doute que maintenant qu'il n'a plus que le championnat pour faire parler de lui. C'était son dernier match de Coupe d'Europe, ils ont tout donné. C'est aussi un moyen de redonner de la confiance à l'effectif, de mettre peut-être certains joueurs qui avaient été un peu oubliés par Galtier, de les ressortir sur ce match-là, sur les matchs d'avant. Voilà, c'est un moyen aussi de redonner de la confiance, surtout à une équipe qui est en plein doute, en plein trouble depuis le début de saison, enfin depuis notamment la blessure de Trinduc, tu l'as bien dit.
Est-ce que dans les 10 dernières minutes tu mènes au score, tu te dis
tant
pas
pis,
tu vas provoquer...
Je veux dire, c'est pas, je pense que de toute façon Toulouse serait pas allé au bout de cette Coupe d'Europe, donc ça aurait été peut-être un match de plus, ils auraient pris une dérouillée derrière. Enfin voilà, est-ce que du coup le sujet que tu soulèves, c'est est-ce que voilà ils auraient dû baisser la garde pour laisser passer Toulouse. En Angleterre, peut-être que ça se fait. Je pense que chez nous, on aurait tous crié au scandale en France si ça avait été fait comme ça.
Mais je pense que c'est effectivement un problème de culture. En Angleterre, ils l'auraient fait. Je pense qu'on l'a sans aucun problème. Ah, mais par contre, je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, justement. Et puis, Toulouse n'était pas non plus un club qui a fait beaucoup de cadeaux aux autres clubs du temps de son règne. Donc, je pense quelque part, il y a une petite rivalité qui s'est faite. Moi, je trouve ça plutôt sain, pour une fois. Et bon, bah, même si effectivement, on passe pour des nigauds aux yeux des Anglais, on sait très bien que les Anglais, on s'en fout. Donc, voilà. Donc voilà.
On va pas calculer. Enfin, je sais pas, des fois avec.
Non, puis c'était un match, quoi. Voilà. Je pense que les gens qui sont venus voir le match, au moins, ils ont dit, on s'est pas fait escroquer, quoi. Quel est l'intérêt d'aller voir un match pour dire, voilà, il a rangé derrière. Ouais. C'est un peu comme si, par exemple, le SP Rouen était invité en Pro A en ayant fini 14e de Pro B l'an passé. Ça n'existe pas. Ça, on peut pas faire des trucs comme ça.
Ligue nationale de bricole. Si, si.
Ah merde, je suis revenu dessus encore. Ouais. J'arrive pas à franchir le pas.
Ouais, je reviens très rapidement. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière sur la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé donc la semaine dernière. J'aime beaucoup l'organisation à l'africaine. J'ai relevé le bus du Congo qui tombe en panne avec un truc comme 40 degrés, sans clim et tout. Enfin voilà, les mecs qui ramènent leur bagage, bon gré mal gré, ils arrivent au match. Je crois même qu'ils ont gagné ce match, donc c'était plutôt sympa. Après, il y a des choses beaucoup moins cool. On se rappelle qu'il y a toujours Ebola, qui est une belle saloperie qui traîne dans le coin. Visiblement, les autorités disent que c'est sous contrôle. On va essayer de les croire. Ce qui est également aussi sous contrôle, c'est deux opposants qui ont été arrêtés, deux opposants au pouvoir. On parle un peu de politique quand même. Simplement parce qu'ils ont appelé à boycotter la compétition. Enfermé, direct. Et encore moins cool, et j'arrêterai là-dessus, lors de l'ouverture du score du match Guinée-Côte d'Ivoire, la Guinée ouvre le score, ça fait un partout au final. Il y a une grenade qui a été lancée dans un bar, il y a entre 1 et 3 morts. Voilà, des supporters un peu foufou, quoi. Voilà, c'était les trucs pas cool sur la CAN, mais je vous invite à la regarder. Il y a encore des matchs très intéressants, notamment ce soir dans le groupe où il y a la, le Congo, la République démocratique du Congo qui joue face à la Tunisie et le Cap-Vert face à la Zambie. Les quatre équipes peuvent encore se qualifier. Il n'y a pas forcément beaucoup de buts, beaucoup de spectacles dans tous les matchs, mais en tout cas c'est très serré. On voit que le niveau c'est est vraiment homogène. C'est un peu comparable à ce qui se passe en Europe, par exemple quand il y a le championnat d'Europe. Toutes les équipes peuvent peuvent sortir de leur,
d'ailleurs,
de leur
la,
groupe.
La Guinée est sortie, je crois, et ouais. positivement ouais. sortie. Elle sort du, de la poule.
Bon, il y a eu un arbitrage maison sur un ou deux matchs. Je sais plus bien lesquels, mais
ça
il y a encore des,
pas.
Il y a encore des choses un peu étranges. Mais bon, visiblement, c'est pas sur tous les matchs, donc
ça n'existe voilà. pas. Ça.
Non, ça n'existe pas.
Il y a juste un truc qui n'existe pas non plus, c'est de, d'avoir une équipe nationale qui fait en ce moment un championnat du monde dans un pays. Hyper républicain qu'est le Qatar et qui bah, que tu peux pas voir donc on peut même pas en parler parce qu'en fait tous les matchs pour l'instant jusqu'à la mi-finale le minimum s'ils vont en demi-finale bah, les handballeurs français champions du monde en titre bah, on les voit pas
donc, ah, je croyais que t'allais aborder moi le Qatar avec sa multi plurinationalité
Bah, le Qatar qui a quand même acheté des supporters espagnols. Alors il les a pas achetés pour qui truc le match, il les a achetés pour qu'ils applaudissent leur équipe que personne ne connaît
c'est énorme
quand même.
Et juste deux secondes sur la Guinée équatoriale, il y a alors il y a, ça avait fait scandale il y a quelques années, mais on peut encore le voir dans l'équipe nationale. Il y a plein, il y a eu plein de naturalisations d'un coup, et c'était Claude Leroy qui en parlait très bien à la veille d'un match des éliminatoires pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu, je crois, 8 joueurs qui ont été naturalisés la veille du match, des Brésiliens. Donc la Guinée équatoriale est la seule équipe où il y a la moitié de l'effectif qui n'est pas voilà qui ne sont pas des Guinéens.
Non mais là c'est pas, là c'est plus enfin même si c'est débile au niveau de la Guinée, ce qui est surtout incroyable c'est que la FIFA puisse autoriser des choses comme ça quoi.
Alors j'ai entendu un sujet intéressant sur une autre radio hier alors qui faisait le parallèle entre le Qatar actuellement et les championnats du monde qui sont pour une répétition avant la possible le plus grand événement majeur dans le milieu du sport qui est donc la Coupe du monde qui sera qui se déroulera là-bas. Ils expliquaient qu'en fait à travers Rouanet qui est un ancien international français qui évolue maintenant du côté du Qatar qui a joué en 2011 avec l'équipe de France hein. Il expliquait un peu sa situation, il joue là-bas depuis 3 ans, il pouvait prétendre à la nationalité, il faisait pas ça au début pour ça, il s'est aperçu qu'il pouvait prétendre donc il l'a fait voilà, il touche pas plus de thunes pour autant. Et en fait, ils expliquaient aussi à une radio que pour la Coupe du monde en fait, ils ont sondé 1 500 000 jeunes du monde entier, de l'Asie, du continent américain, de l'Afrique, pour aller chercher des jeunes de 17, 18, 20 ans, peut-être même parfois plus jeunes, pour préparer l'équipe nationale du Qatar. 1 500 000 jeunes ont été étudiés pour les rapatrier dans une école de foot qui a l'air aux installations incroyables, parce que bien sûr, c'est ça aussi là-bas. Les moyens sont là pour mettre... d'ailleurs, Rouanet le dit, les stades, les gymnases, enfin, sont incroyables.
Il y a des stages de lapidation, des trucs comme ça aussi, non ?
Deux ?
Stages de lapidation.
Non, ouais, non mais oui, bien sûr, ça c'est un truc de fou. Mais je veux dire, c'est hallucinant de se rendre compte de ça, quoi. Les moyens ne sont quand même pas égaux, voilà, j'ai envie de dire. Bon, on va arrêter de développer sur ce sujet, on s'accorde une petite pause de musique, et puis on revient sur quelques résultats locaux tout de même. Et la LM.
Pourquoi tant de haine? C'est vraiment pas la peine. Je ricane de le dire à les hommes sont les mêmes. Malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation.
Même si j'ai grandi au milieu des rues, ayant derrière moi des tas de flics au cul, je me suis vu et je suis m'engagé sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes.
L'enfance est passée, depuis combien d'amis sont tombés, ne se sont pas relevés. Combien de mères j'ai vu pleurer sur les corps de leurs fils par la mort fauchée.
Pendant 7 jours, sur le béton des tours, les larmes de Dieu qui tombaient du ciel. Pour ce monde fou de Satan la cour, je regardais les violences de mes yeux de miel.
J'ai vu les feuilles mortes, les arbres en automne, tourner à la couleur rouge vive comme le fleuve de sang qui encore se répand, prend sa source en Afrique et s'étend aux quatre vents.
Oh yeah, la note est bien lourde, tu ne vois pas ce sang, t'as la mémoire courte, où tu fuis tes souvenirs à une idéologie et volontairement, tu te la raccourcis.
Alors dans ce cas, tu es mon ennemi. Viens ici, si ma religion m'enseigne un vœu de paix, la paix ne compte plus si je me sens blessé.
Tu te souviendras de la couleur du sombre rouge, tu te soumettras, pas d'accord? Bouge.
Toi le frère noir aveugle et sans attention, rouge est la couleur de la révolution.
It began in Africa.
A whole lot of talk about the red, black and green.
It began in Africa.
A whole lot of talk about the red, black and green.
It began in Africa.
A whole lot of talk about the red, black and green.
It began in Africa.
Combien d'enfants a-t-elle emporté, en a-t-elle eu et abattu, je ne sais plus, le trottoir. Si sur mon camp vient le soir, la mémoire n'a plus d'espoir, sans le trottoir.
Noir comme la couleur de la peau de mon peuple, enchaîné par l'esclavage mental. Car l'ignorance est telle que le mal elle emporte. Pour un démon qui se voit fort et frappe à nos portes.
Allah Wapa, protège-nous des ténèbres absolues, toi qui peux voir. Toi qui es bon, c'est pas trop tard, n'étant pas parfait. J'essaie de faire le même, je tenterai d'être juste et ça c'est mon problème.
Domine ma rage, être équitable et sage. Tourner la page, sont ceux qui se plaisent au bavardage. Plus de xénophobie, ni de politique, rien que l'alliance des poètes afro-asiatiques.
Vois-tu ce noir au fond de mes yeux? 40 frères à mes côtés et ils parlent pour eux.
Notre pouvoir est tel qu'ils scient les barreaux de toute prison. Noir est la couleur de l'unification.
Laisse le stress progresse sans cesse au passé, presse et laisse l'esprit aux promesses. Pourquoi devrais-je avoir confiance en croulant, déclarant des conneries au nom du président?
C'est pareil mon frère, pourquoi devrais-je avoir un visa? La terre créée par Dieu n'appartient pas à l'état, toi ou à moi. Ou quiconque s'envoie le droit, l'argent est roi. Passe avant tout encore une fois.
C'est une honte de voir les dirigeants à l'assemblée crier, pleurer comme des enfants. Tout est faux, tout pour de taux. Et j'ose le clamer du haut de mon micro.
As-tu vu le vert, non pas le pervers, des plaines souriantes de la terre mère. Enfants déracinés, on a participé à construire le grand pays de la liberté.
Les récompenses ont été pour les fils de Charles, le Ku Klux Klan et la guerre du Vietnam.
Plus de mensonges à l'avenir, faites attention. Car vert est la couleur de la libération.
Rouge, noir, vert dans nos visions.
La seule solution.
Énormissime morceau de la part de Imperial Asiatic Man, IAM plus communément appelé, hein, qui était issu de, enfin cette version remix on va revenir derrière, mais Red, Black and Green c'est issu si je ne m'abuse du premier opus, premier album consistant d'IAM, on était au début des années 90, et puis derrière il y avait quelques remix qui tombaient, Red, Black and Green, Sofa Jazz Remix, un morceau que l'ami Antoine je crois affectionne tout particulièrement aussi.
C'est ça.
Il est vrai. C'était la première pause musicale. On enchaîne, messieurs, mesdames, auditeurs, auditrices, sur les résultats locaux. Alors, on a toujours pour habitude de pondre et de récupérer hein, les écrits de notre, par exemple, Anthony Morel, le coach de Saint-Sébastien Sport Handball. On rappelle qu'il joue en pré-national, que dans cette poule qu'il voit mener pour le moment, et son premier au classement, il y a la réserve de Cherbourg. Et donc voilà ce qu'il m'écrit. Je vous lis texto. Victoire de Saint-Cé à Gonfreville. C'est un gros match, un gros déplacement.
C'était le deuxième. Hein.
Voilà, 30 à 26. Surtout, je crois que Gonfreville avait battu Cherbourg, justement. Voilà, donc victoire de Saint-Cé à Gonfreville, 30 à 26 en un match d'une intensité énorme. Une défense de feu et un Adèle Gasmi de gala dans les buts du côté de Saint-Sébastien. Alors, défaite de Cherbourg qui a encore perdu. Ils ont du coup Saint-Cé 2 points d'avance et un match en retard. La pièce a l'air de vouloir tomber du bon côté cette année. On reçoit l'ACREA, donc la communauté de communes de Rouen.
Les amis d'Anthony.
Voilà, dimanche à 16h à Coubertin, au gymnase de Saint-Cé. Je vous rappelle, hein, ça fait quasiment sale comble tous les dimanches. N'hésitez pas à vous y rendre dimanche, voir l'ambiance à 16h. En tout cas, on est ravis de cette épopée du côté des Verts de Saint-Sébastien de Morsan.
Ouais, ça fait longtemps qu'on les suit et vraiment on est content parce que ça fait plusieurs années où justement ils sont deuxième, troisième et ça tient un peu de choses. Il y a qu'une seule montée, hein, faut savoir, c'est vraiment difficile. Et là, le travail que fait Anthony depuis de nombreuses
années. Avec des joueurs du cru, hein.
Avec des joueurs du cru. Bon, ils ont eu la chance cette année d'avoir deux, trois gars qui sont arrivés mais qui sont bien fondus dans le moule. Eh ben ça semble effectivement aller du bon côté cette année. Là, ils ont vraiment une voie royale parce que là, ils n'ont même plus à craindre le déplacement à Cherbourg en match retour. Ils peuvent perdre là-bas, voilà. Quand tu peux perdre, c'est-à-dire que tu peux te mettre en situation de gagner. T'as pas cette pression négative que t'as sur les épaules habituellement. Et là, vraiment, ça serait vraiment une très bonne nouvelle d'avoir un club en N3. C'est du très bon
carrément.
Niveau. Sincèrement, je vais pas suffisamment les voir, mais je les avais vus notamment dans un match à Vernon. C'est vraiment hyper agréable à avoir joué. Ça court, il y a vraiment beaucoup d'intensité, il y a de la jeunesse, il y a de l'envie. Bon, il y a des petites erreurs, mais franchement, c'est très agréable à voir. C'est vraiment du chouette sport.
Maintenant, comment vont-ils digérer avec la pression de justement potentiellement.
Il faut vivre avec ça maintenant. Mais bon, là, ils l'ont déjà digéré parce qu'il fallait aller gagner à Gonfreville justement, qu'ils venaient de battre. Et c'était vraiment un match charnière. Gonfreville, en l'espace de deux semaines, vraiment, ça s'est complètement décanté. Maintenant, il faut rester focus et tout ça. Ça va être.
Ensuite, après, on essaiera de joindre Anthony encore dans la saison. Là, ça va être compliqué aujourd'hui. On a aussi, on reste dans le basket, Jeff qui coach à la fois l'excellence régionale.
Coach tout le monde, Jeff.
Ouais, Jeff, il coach l'excellence régionale du côté de l'OAC féminine. Il ne jouait pas en coupe parce que c'était un week-end de coupe. Il coach aussi la Nationale 3 à la section, avant qu'on évoque la chose de l'ALM amateur, hein, Antoine.
Ouais, oui.
Voilà, mais qui ne jouait pas non plus ce week-end. Mais par contre, il avait envie de me souligner ça. Et du coup, j'en profite et je vous le dis. Victoire de Saint-Sébastien de Morsan. On reste à Saint-Sé aussi, mais côté basket.
Il joue pour Saint-Sé.
Et il joue, en fait. Et en fait, a priori, c'était demi-finale de la Coupe de l'Eure. Ils ont escoffié, hein, n'ayons pas peur du terme, le Neubourg 99 à 66, donc plus 33 points. Il y a d'ailleurs d'autres animateurs de la radio, parce que je crois qu'il y a Steven de Vimbal-Lorap qui joue aussi dans cette équipe-là de Saint-Sé Basket. Il y a des anciens, les copains, on les connaît tous, hein, les joueurs de Saint-Sébastien de Morsan. Je me demande si Jérôme, il n'est pas dans les parages, ami Antoine.
Je crois pas.
Il est plus.
Moi, j'y vais de temps en temps. Hein, je joue encore avec eux le mardi soir de temps en temps. Là. Je joue avec eux, surtout eux qui jouent avec moi, parce qu'ils sont...
Il y a Olivier, Laurent...
Il y a les anciens, c'est sympa. Et c'est vraiment, ils ont descendu leur équipe, leur ancienne équipe 1, ils sont redescendus en départemental pour laisser la place aux jeunes. Et c'est avec cette équipe-là qu'ils sont en train de faire un bon petit coup.
Une équipe de vieux briscards, il me dit.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, ils ont gagné, en tout cas, ils sont qualifiés pour la finale.
Ils joueront.
Alors, la date, je ne l'ai pas. Avec un super postin.
Jean-François.
Ouais, Jean-François.
Oui.
C'est un all-around player. Un combo.
Un combo.
C'est un combo combiné.
Ils joueront donc soit Boss Projet, soit Etrépani, puisque l'autre demi-finale n'a toujours pas été faite. Voilà le petit résultat qui allait bien de notre côté.
On est allé voir le site internet de l'Evreux Volleyball. Les filles ont gagné contre Amiens 3-7 à 1.
On est
en élite.
Deuxième niveau national.
C'est une très bonne perf, hein, faut le dire. Des fois, on les gratouille un peu de temps en temps parce qu'on a des petits problèmes avec le VB sur le fonctionnement. Il y a eu un peu de remue-ménage depuis le départ de Manu Fouché. Mais là, le travail qui est fait depuis une demi-saison par Olivier Lardier, on avait des doutes sur la mise en route et là, en fait, ça semble fonctionner. Ils avaient été battus à la match aller par Amiens à domicile et là, ils sont allés prendre leur revanche.
3-7.
C'est bien. Ils prennent 3 points en plus. Ils repassent dans le trio de tête qui est donc nécessaire pour arriver dans les phases finales. Et donc, les phases finales, ça pourrait donner l'occasion de jouer contre 3 autres équipes en face pour deux billets d'accession. Donc il faut être après, si t'es dans les 6, après il faut être dans les 2. Mais par contre, les matchs, ça va dépendre aussi du classement là d'ici, parce que les matchs qui ont été joués contre les équipes de ta propre poule comptent dans le classement, dans le futur le futur classement de la deuxième phase. C'est un peu compliqué, mais voilà. Mais bon, ça vaut le coup d'aller voir. Il y a un réel public. Le public n'est pas parti avec Manu Fouché, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Il est resté, il s'est fidélisé. Le niveau du jeu est sympa. Et puis, tu as des filles qui sont très sympas. Tu as un trio d'italiennes qui est très, très bien. Et voilà. Puis, il y a quelques joueuses qui sont là depuis quelques années. Donc, ça vaut le déplacement. Je crois qu'il y a le prochain match, je crois, est en février. Mais elles sont encore en coupe. Elles jouent en coupe à Nancy, en quart de finale de la Coupe de France.
Rugby féminin, en plus c'était un week-end.
Oui, il y en avait à la télé. D'ailleurs, j'ai zappé un petit peu dessus. Il y avait les garçons qui jouaient en Coupe d'Europe. Il y avait les filles aussi. Qu'ont fait les filles de l'EAC rugby?
Elles ont remporté le derby. Alors, comme souvent entre Évreux et Lazru Duc 15 couronné, donc de grand couronne.
C'est Lazruc, ouais, c'est leur
match haché et ardemment disputé. Les Ébroïciennes ont fait la différence en première période et résisté au retour des Sénomarines, victoire 17 à 5, 3 essais à 1. Voilà, du côté de l'OAC Rugby.
Bravo à Jean-Jean et Robin, les deux coachs problématiques
de l'équipe.
De cette équipe.
On revient sur la rencontre de l'ALM. Basket section professionnelle, enfin version professionnelle, avec un petit échange, une partie, puisque je vous l'ai dit, vous entendrez l'intégralité avec le coach Rémi Valin mercredi à 12h30, une petite pastille, et puis après on développe sur le sujet, ami Philippe.
On devrait être euphorique, on voit le meneur qui arrive à enchaîner à 3 points, c'est un truc de ouf, mais moi je le suis pas, pour la simple et bonne raison, déjà je le trouve pas bon sur la première mi-temps, et enfin, j'ai pas converti aux caisses, mais... Est-ce que, je veux pas être redondant, je veux pas être dans la pratique, mais tu as déjà dû l'entendre, tu as déjà dû beaucoup y réfléchir, tu as déjà dû le tester, mais cette réflexion de se dire à un moment donné, bah, c'est peut-être quand même plus un, je vais me placer en shooter, voilà, ça va être ma machine à dégainer, est-ce que ça peut pas être un truc que tu conserverais?
Non, parce que quand on est sur les entraînements, il fait très bien, sur beaucoup d'entraînements, il fait très bien jouer l'équipe, voilà. Après, c'est une sorte de 2-1, de petite taille et tout. Mais il a 22 ans. Il faut qu'il apprenne.
Il le fait très bien quand il sort la pression sur lui.
T'as aussi le truc, c'est que quand la balle, elle reste pas en vie, si tu veux, il la retrouve pas dans des bonnes situations.
Il vient s'enfermer 2-3 fois.
Mais c'est ce qu'il faut qu'il
arrive. Je te vois énervé, mais il est.
Il faut qu'il arrive à comprendre, ouais, de lâcher vite les ballons. Tac, tac, dans le système. Et puis après, comme ça s'est passé un peu en deuxième, il va retrouver un ballon et un bon ballon. Après, quand il est dans l'euphorie, à un moment, je lui dis, tu joues 5. 5, c'est un système pour lui. Bim, il met le 3 ans. Tu sais qu'il est dans l'euphorie. Là, il peut jouer tout de suite pour lui. Parce
aller,
que,
ouais.
Voilà. Mais non, il a 22 ans. Après, dans le type de jeu, je lui dis, il sort beaucoup d'entraînements. Il fait jouer. Ouais. Voilà, il y a des entraînements. Là, donc, il est capable de faire. Après, il passe en deux. Il est aussi intéressant. Quand il passe en deux, il l'a joué plusieurs fois. Là, on a joué 2-3 systèmes pour lui en deux, même quand il était sur le meneur. Et après, il a joué Matisse. Là, donc, bien sûr que pour l'instant, dans l'âme, c'est plus un 2. C'est plus un 2 score, c'est plus un 2. Sauf qu'à un moment donné, si lui veut gravelir d'étape, il ne peut pas jouer 2 à 1m50.
Ouais. Clairement.
Donc voilà, c'est une sorte de meneur à la Bobby Dixon, des mecs comme ça.
On sent quand même qu'il progresse quand même. Depuis,
oui, il progresse.
Il reste quand même pas mal depuis quelques.
Il perd beaucoup moins de ballons.
Oui, il perd beaucoup moins.
Après, tu vois, faudrait voir aussi comment il s'adapterait dans une équipe avec plus d'expérience. Et aujourd'hui, vu la manière dont on joue, on a besoin. Comme ça aussi.
Ainsi, ouais. Ah bah oui, c'est lui qui décompte le truc, hein. Bah, clairement.
Donc, voilà. On a et moi, je lui dis, hein, si à un moment donné, il prend pas ses responsabilités comme ça. Et maintenant, il faut qu'il arrive à trouver plus de justesse dans son jeu. Ça, on est d'accord, on le sait.
Donc, on a extrait cette partie-là, puisque forcément, ça avait été le fait du match, le fait de cette rencontre, c'est la grosse performance individuelle de Glenn Causey, le meneur US, le jeune meneur de l'ALM Évreux. Et donc, voilà, j'ai extrait cette partie-là parce que je trouvais ça intéressant d'avoir le regard aussi du coach. Philippe, donc alors, on va quand même le préciser, hein, la précision, clairement les stats, c'est 8 sur 11 à 3 points, c'est 31 points pour 29 déval avec quand même 3 passes, 4 passes décisives, 3 balles perdues, il y a 3-4 rebonds, oui, il y a 3 rebonds. Bon, une grosse performance individuelle, mais en dehors de ça.
Non, bah, je suis un peu comme toi, hein, je suis toujours... J'aime pas trop, on est pris par l'adresse, hein, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure en NBA, quand tu vois un gars qui prend feu à 3 points, qui shoot, à un moment il shoot, il est à 8m50, on voit qu'il est dans la zone, quoi, donc ça c'est vraiment bien, c'est plaisant à voir jouer. Maintenant, ça solutionne pas le problème de l'équipe, hein, le problème de l'équipe à l'heure actuelle, je sais pas si Antoine a l'occasion de les voir de temps en temps aussi, mais on sent pas de lien vraiment, le collectif il est vraiment très en retard, je trouve, par rapport à beaucoup d'autres équipes qui sont moins fortes sur le papier. On a du mal, je pense qu'effectivement Glenn Causey en est peut-être une petite partie, responsable pour une petite partie, parce que je trouve qu'il a du mal à faire jouer, même s'il y a des progrès, il est pas aussi bon que B.A. Walker l'an passé, par exemple, qui était moins spectaculaire, moins adroit, mais par contre, je trouve qu'il était beaucoup plus régulier sur la construction de jeu. Moi, j'aurais préféré, toi, avoir un gars comme B.A. Walker, parce que je pense qu'effectivement, ça aurait déjà beaucoup mieux posé l'équipe cette année, avec notamment les jeunes qu'il y avait derrière, ça aurait été bien. Bon, bah, ça s'est pas fait. Il y a du talent, c'est bien. Maintenant, le talent ne suffit pas toujours. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est un Glenn Causey qui fait des matchs comme ça à l'extérieur, dans un contexte, un contexte plus difficile. Et surtout, qui fasse jouer son équipe, quoi. Parce que moi, je l'ai vu marquer, une fois, c'était 17 points, je crois, au Portel, mais on prend 30 points on avait 30 points d'écart après 15 minutes de jeu. Et en fait, ça sert à rien, quoi. C'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'il y a que les amateurs de stade qui regardent la feuille à la fin, qui disent, voilà, c'est bien. Mais non, dans le vrai jeu, en fait, il est pas là, quoi. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il se fasse mal. Enfin, tu vois, c'est pareil. Je trouve qu'il est, même s'il est plus concentré, je trouve que c'est pas un gros défenseur. Il y a plein de choses qui me gênent.
Il y a deux éléments.
On va pas faire que son procès, parce que c'est pas
non,
son
non,
procès
non,
à lui.
Non,
il y a
tout,
le procès
du tout.
Il y a l'équipe aussi qui doit.
C'est un sport collectif. Non, mais il y a deux choses. Il y a eu quand même, à la décharge de Rémi Vallin et donc de cette équipe, il y a eu plein de modifications, plein de mouvements.
Là, oui, non, mais c'est une réalité. Même, hein, ouais. Un petit peu quand même. Ouais. Maintenant, attendons de voir, même si on était impatient d'espérer en tout cas une deuxième partie de saison, parce que là, on y arrive. Hein. Là, ça y est, la phase aller est terminée. Là, on va jouer vendredi, samedi à Boulazac. D'ailleurs, petit aparté, c'est diffusé sur LNB.fr, LNB TV, la rencontre. Donc, samedi, on ira jouer à Boulazac, qui était la seule équipe qui est venue nous battre à domicile cette saison. Parce qu'on
on va aller la voir. Tiens,
tu y vas ?
Ouais, on y va.
Très intéressant. Il y a ces petites choses-là. Et Rémi Vallin, vous l'entendrez mercredi, ce qui est incroyable à ce moment de la saison. Pour lui, il manque de l'allant, il manque de l'expression, il manque de l'énergie aussi, même l'acceptation du résultat que nous sommes en train de réaliser. Il dit ouais, je comprends pas, vous entendrez mercredi, ça m'embête, ouais. Les gars sont pas contents, il y a pas de.
C'est exactement, en fait, la première des choses. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu un pisse-froid, mais quand je suis sorti du match, j'ai dit, putain, on s'est emmerdé quand même pendant quand même la majeure partie de ce match, notamment au début et à la fin, ce qui est gênant, parce que quand tu t'enquiquines au début et que déjà il fait pas chaud dans la salle, hein, on s'en prend.
Ah non, mais là, moins 15.
C'est une honte. Donc tu termines le match alors que tu t'as trouvé Causé qui avait mis le feu là-dedans, t'as plus 20, tu en as plus 20, tu dis voilà, ça va continuer, on va faire un gros match, un match référence. Maintenant, tu finis à plus 12, ouais. Tu t'emmerdes le dernier carton, et puis, les gars, à la fin, ils tapotent dans les mains, parce que maintenant, c'est devenu, fait partie du business, dans le job de taper la main du public. Mais il n'y a pas de sourire, il n'y a rien. Et le mot commun qu'on a eu avec Rémi Vallin, je dis putain, il est où l'enthousiasme là-dedans? C'est exactement ce qu'il ressentait, parce qu'il me dit que dans les vestiaires, c'était pas terrible non plus. C'est un peu gênant, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui sont, j'ai parlé un petit peu avec James Mattis, lui il me dit qu'ils sont très concentrés parce que justement ils ont tendance à merder à l'extérieur, donc ils sont très concentrés à domicile. Mais bon, la concentration c'est une chose, mais à un moment t'as besoin d'allant, c'est un plaisir d'être joueur de basket, enfin je sais pas, tu traînes pas quand même toute la misère du monde quand tu rentres, même si la salle est froide, il y a bien pire, hein, comme situation. T'as de la chance d'avoir un public qui reste vachement fidèle, qui se réchauffe comme il peut, et puis donc justement qui a tendance à encourager l'équipe de son mieux, voilà, qui la porte, qui s'enflamme très vite. Il faut s'appuyer là-dessus, mais il faut aussi savoir, voilà, se créer un groupe, se dire voilà, t'es là, tu vis pendant 9 mois de l'année ensemble, t'essaies de faire quelque chose, mais t'es pas juste là pour faire un job, et puis voilà, une fois que t'es terminé, tu remets ton casque sur les oreilles et tu te barres, quoi. C'est franchement, moi je la trouve triste, cette équipe, ça me gêne de dire ça, mais pour l'instant je la trouve triste. Je trouve que même Guillaume Constantin qu'on a souvent qui est pas quelqu'un de toi qui est d'exubérant et tout ça, mais qui avait de la rage, j'ai l'impression qu'il est un petit peu résigné, parce que je crois qu'il arrive pas à la faire bouger comme il l'entend. Son rôle de capitaine ne doit pas être aussi important, aussi essentiel que les années d'avant. Moi, j'espère que l'arrivée de James Mattis, qui est vraiment un vrai guerrier et qui aime bien gagner, et qui va, bon, là pour l'instant il est pas terrible, donc je pense qu'il va mettre sa voix en sourdine, mais je pense que s'il arrive à retrouver un vrai niveau de jeu, ça ne peut pas être pire, donc voilà. Je pense que ça peut apporter quelque chose. Il peut être un vrai relais sur le terrain, mais on ne change pas, hein, du jour au lendemain, on ne change pas l'eau en vin. Sauf
Antoine, tu assistes à quelques rencontres. Bon, après, toi, tu as une histoire d'entraînement qui ne te fait pas arriver très tôt à la salle.
Je travaille jusqu'à 20h30, donc déjà, c'est compliqué. Mais elle n'a pas beaucoup d'âme, quoi, à la différence de l'équipe de la saison dernière. Ouais, tu t'emballais l'année dernière parce que des fois, quand ils avaient décidé de serrer la vis, pendant 5 minutes, ça devenait très compliqué pour l'adversaire. Et puis, du coup, ça te mettait un peu dans l'euphorie. On pouvait critiquer à Chaoulou, mais dans l'énergie, tout ça, c'était...
Exactement.
C'était géant, quoi. Donc, voilà. Et puis après, on a des souvenirs aussi d'il y a 2 ans, où, voilà, avec des joueurs charismatiques. Wood, on en a pour fait le deuil, quand même. Hein, passer après Wood, c'est pas simple, quand même. Donc là, on récupère un mec qui est jeune, qui est rookie, je pense à Tic, quoi, mais Tic, c'est pas Wood, quoi. Donc voilà, lui, c'est sa première expérience, tu rajoutes un meneur de jeu dont c'est sa première expérience, et ça te fait un axe 1-5 qui est complètement rookie, quoi, dans sa vie de basketteur comme dans sa vie de professionnel, quoi. Donc il y a des choses... ces gens-là, il faut leur expliquer des choses parce qu'ils sont jeunes. Et puis ça prend aussi du temps.
Il n'y a pas que l'aspect sportif, en fait, il y a presque un aspect pédagogique envers des joueurs comme ça qui arrivent d'étrangers.
Je pense que ça en fait partie, ouais, parce qu'ils viennent d'une autre culture aussi.
D'un autre pays, il faut s'y mettre.
Mathis Keita, il a quand même un cursus universitaire américain aussi, donc c'est pareil, tout ça, il faut que ça s'assemble, et de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut être patient avec
cette équipe. Parce qu'il y a du talent dans cette équipe, clairement.
Mais on le sait tous, c'est une équipe où il y a des fois des équipes où tu dis, lui, il n'est pas vraiment basketteur, ou là, il n'y en a pas, quoi.
On pourrait presque imaginer. Moi,
il y a du talent à la base.
J'irais presque dire que, hormis le collectif de comment dire, Monaco, enfin qui est un collectif, l'armada monégasque qui a été constituée ou autre, J'ai presque envie de dire que sur toutes les équipes que j'ai vues jouer cette saison, alors on les a pas toutes vues encore à domicile, on a l'effectif peut-être le plus dense. Ouais. J'ai presque envie de m'avancer et de dire ça, et je ne comprends pas.
Peut-être, ouais, mais il y a un truc qu'il faut, tu vois, bon, j'ai vu une équipe, l'équipe de Denain, tu vois, qui est venue, qui a perdu, hein, Évreux, je préfère 10 000 fois l'énergie qu'a montré Denain à l'extérieur, parce que je pense que je l'ai jamais vu encore à Évreux, on n'a pas vu beaucoup de matchs, j'ai vu 2-3 matchs à l'extérieur, mais, on n'a jamais vu ce collectif, tu vois, ils étaient à la peine, et ils sont fait bouffer, parce qu'Évreux, ils ont quand même, quand ils défendent fort, c'est quand même, comme tu dis, hein, c'est solide, mais, eux, ils sont amenés à, ils savent voyager, Denain. Parce que, tu vois, ils ont créé un groupe. Ils ont cette unité de groupe. Ils ont ce côté, voilà, on sort, on y va, on tire pas la tronche quand on sort, ça fait partie d'un, il y a un va-et-vient. Là, on a l'impression que, tu vois, chacun attend un petit peu son temps de jeu, tu vois, ce machin. Enfin, c'est trop nombriliste. Je crois que c'est le terme qu'a employé, Rémi à la fin. Et ça, faut à tout prix qu'il casse ce côté nombriliste parce que c'est le cancer du basket, hein. Si le gars, il pense à lui, il pensera jamais à l'équipe. Et ça, c'est très mauvais. Et ça, tu vois, ça va être beaucoup, peut-être plus loin à mettre en place que 2-3 systèmes différents. Ça va être faire penser aux gars de jouer ensemble pour l'équipe, pour le club et pour aller pour sortir, aller en play-off et faire quelque chose. Si les gars, ils n'ont pas conscience de ça à mi-saison, ça va être chaud, ouais.
Est-ce que c'était pas, en fait, avec d'autres mots, ce que vous souleviez depuis le début de la saison? En fait, au début de la saison, vous, comme il y avait pas mal de nouveaux éléments, vous étiez dans l'attente, vous qui êtes plus expert que moi, un observateur du basket, j'allais dire du rugby, du basket, voilà, il y avait de nouveaux éléments, donc ça, la mayonnaise, il lui fallait du temps pour qu'elle prenne. Là, le temps, je sais pas, vous êtes plus expert que moi, mais le temps, il semble s'être écoulé. On est à la moitié de la saison, il y a eu des résultats, il y a eu certaines choses, mais en fait, cet esprit un peu individualiste et ce corps d'équipe qui prend pas, en fait, à vous entendre, on a l'impression qu'il va jamais prendre, quoi.
C'est un peu ce qu'on redoute, en fait, hein, depuis le début, hein. C'est vrai que c'est ce que tu dis, hein. On l'a souligné au départ. Et il y a des choses que t'as en toi, hein. Il y a des gens, toi, qui sont un peu sur les talons, des gens qui sont exubérants, d'autres qui sont plus effacés. J'ai l'impression qu'on a trop de joueurs effacés, trop dans le rang. Pourtant, tu vois, c'est un coach qui est quand même assez jeune, quoi. Le club, il n'y a pas une grosse pression, quand même, sur le club, quoi. T'as pas un général manager qui vient te sonner les cloches tous les jours, tu vois. Peut-être même dommage, des fois. Parce qu'il serait bien d'avoir que Rémi Vallin ait des relais des fois, au sein d'un club, quoi, quelqu'un qui pourrait à la fois avoir son mot à dire sur le sportif, tu vois, et puis voilà, mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Je pense que c'est des choses que tu as en toi, et je pense que beaucoup de joueurs ici ne l'ont pas en eux. C'est-à-dire qu'ils ont, ils intègrent, ils apprennent le basket professionnel. Mais c'est au détriment de ce qu'ils ont, enfin de ce qu'ils ont en eux, enfin c'est-à-dire qu'ils savent pas le vivre,
que les choses soient claires, on n'a pas précisé une entame de match catastrophique, 13-17, des pertes de balles des deux côtés. On peut même s'estimer extrêmement heureux de finir le premier quart-temps à 13-17, ouais. Que à moins 4.
je trouve pas ça catastrophique. Attends. Je trouve ça pas bon.
Ah ouais, et pas beau.
Ouais.
Voilà. C'est Laou qui prend rapidement deux fautes aussi. On reviendra pas sur l'arbitrage d'un des deux arbitres, mais il était contre-productif pour moi pour une rencontre de basket de haut niveau. Il y était pas. Mais Laou Konaté, donc deux fautes rapidement. Et en fait, dans le deuxième carton, celui qui maintient un peu, enfin même milieu de premier carton et deuxième, c'est le petit Cordinier qui amène. Alors, il fait des erreurs en deuxième partie de match, dans la seconde moitié, mais quand il rentre dans le premier carton. Et lors, dans le deuxième carton, donc en première partie de rencontre, c'est lui qui amène un peu de fougue, un peu d'énergie, où il va essayer d'y aller, où il a les gestes qui vont avec l'attitude. Et il a 18 ans.
Ouais, je pense que lui, par contre, voilà, je me fais pas de soucis pour lui, parce que lui, il va y arriver.
Aucun souci pour lui.
Là, lui, il rentre. C'est vraiment, je crois que c'est la vraie bonne surprise de cette équipe-là. C'est peut-être lui qui va d'ailleurs prendre rapidement plus de place au sein du groupe, parce que franchement, je trouve qu'il est très bon. Il est pas enfermé dans des stéréotypes et tout ça. Il est là pour jouer. Il a envie de bouffer du ballon. Il attaque le cercle.
Alors, il transpire le basket, c'est clair.
Il se fout des fois dans des petites galères, mais il reconnaît ses erreurs. Il va parler au coach. Je trouve qu'il a une bonne attitude. Je pense que Michael Var aussi peut apporter plus, même si pour l'instant, ouais, il est un peu dedans, et je pense que l'arrivée de Matisse doit lui faire un peu de mal, parce que je pense qu'il espérait ça.
Alors, il joue une minute. Alors, ouais, pour l'anecdote, il joue une minute de 30 de moins que Matisse. Matisse finit la rencontre avec 3 dévales. Quant à Michael Var, il finit avec 4. Vous voyez, sur le poste 4, on est moyen quand même. Hein. Non, 11, que dis-je, pardon.
Oui, non, je pense que
11.
Ça, ouais.
12 points pour Var, 5 pour Matisse, mais on l'a dit, il est encore hors de forme. Oui. On n'est pas inquiet, parce que c'est lui le meilleur rebondeur.
Sur 20 minutes, il pense être bon. J'ai parlé avec lui, il se fout une pression monstrueuse, parce qu'en fait, les gens ici qui le connaissent tous, hein, il est revenu plusieurs fois avec Aix, il est revenu avec Nantes aussi, je crois.
Lille.
Lille, on l'a pas vu, il jouait là-bas.
Ah,
mais en fait, il connaît un peu tout le monde et les joueurs sont restés sur ces niveaux de trois saisons qu'il a parfaitement réussi à Évreux. Et en fait, lui, il sait que pour l'instant, il n'est pas. Il me dit, je suis un joueur nouveau, quoi. Même si effectivement, il faut que je m'intègre dans un groupe qui est déjà en place. Et voilà, j'essaye de faire des choses, mais je force des choses. Enfin, il a pas ce petit feeling pour l'instant, donc il faut que je sois plus relax. Donc il se donne du temps. Ouais, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, je pense qu'il va être important à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il va booster l'équipe. Maintenant,
On va voir ça samedi, ouais. Dès samedi à Boulazac. Petit aparté aussi, c'était donc la 17e journée de championnat. On bascule avec 9 victoires et 8 défaites avant d'aller dans la phase retour.
C'est pas mal, hein.
C'est le moment. Ouais, c'est pas catastrophique, disons.
C'est-à-dire que là, il y a la
9e au classement.
L'année où on avait été en quart de finale, on avait failli sortir Limoges, on était pareil. Je crois qu'on avait exactement la même chose. Donc ça peut se faire encore, hein. Sauf qu'il y avait Philippe Da Silva comme meneur de jeu.
Qui a amené une autre
quoi. Au niveau d'Agrinta, c'était autre chose que.
C'est le manque de leadership, là.
Voilà, c'est ça. C'est
le leader naturel.
C'est pas de leader naturel.
Et puis, c'est presque bête à dire, mais là où Konaté a du talent, ça, c'est absolument pas à prouver.
C'est une équipe qui a du talent.
Mais moi, je reste encore aussi sur ma fin avec Laou.
Ouais, moi aussi. Ouais.
Il est capable d'être incroyable. Je veux dire, il est capable de tout faire sur un terrain, défendre dur. On rappelle que c'est quand même scolting régulièrement les US en face. Là, il finit avec un 12 déval très très honnête, hein, 25 minutes de jeu, 7 points. Il perd une balle, il fait aucune interception. Il fait 2 sur 2 à 3 points, il fait 2 sur 3 à 2 points. Mais voilà, c'est pas, je sais pas, 5 passes décisives quand même à noter, c'est le meilleur passeur de l'équipe. Je sais pas, il y a pas le truc supplémentaire qui ferait de lui un 4e US comme au départ j'ai mal imaginé.
Ouais. Moi je pense que
D'ailleurs Amy Valin, vous l'entendrez, un peu déçu.
Ouais, un petit peu déçu.
Et un petit peu déçu.
Et je pense que le joueur qui manque beaucoup c'est Pierre Etienne, parce que lui, franchement, il avait trouvé la bonne
amélioration,
il a deux merdes de suite dans la saison. C'est con parce que franchement je pense qu'il était sur une bonne lancée l'an passé. Il avait trouvé sa place dans le 5 l'an passé ce qui était pas mal. Il y a un jeune joueur qui vient de N1. C'est dommage mais je pense qu'il va bosser lui pour réintégrer ça. C'est pas non plus un leader dedans. Par contre, c'est un gars qui a pas peur. Donc voilà.
Parce qu'un 5, Pierre-Étienne Drouot, Laou Konaté, plus Matisse, Tig et Causé, ça quand même de la tronche. Surtout que le banc derrière, quand t'as un VAR.
Cordinier,
Matisse qui est quand même capable d'être bien présent. Babacar qui est capable aussi d'envoyer du bois. Et j'oublie qui. Et Guillaume qui défonce sévère parce que oui, pour certains il prend pas assez de shoot, oui pour certains il prend pas assez de, on pourra en parler longuement, mais en attendant il défend dur et il rapporte toujours des paniers puisqu'il en évite certains en fait. Ça fait quand même une sacrée équipe, hein. Donc on attend que la mayonnaise prenne, on espère des samedi encore une fois Boulazac.
Hier Toulon
a pas été souvent mené chez eux, à la mi-temps mené, après on devient apathique, mais voilà, on n'est pas loin.
Mais faut surtout pas oublier que c'est une saison vraiment rêvée pour faire un coup, parce qu'il y a pas de grosses équipes comme les années passées où tu avais déjà des équipes qui étaient programmées pour monter. Là cette année t'as Rouen, Rouen ils viennent se prendre une doudoune.
Ils ont des gros problèmes de défense.
Il y a pas de gros effectifs. Il y a Monaco effectivement qui a créé quelque chose qui peut fonctionner, mais qui est pas non plus d'une autre planète, quoi. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose, mais pour faire quelque chose, il va falloir que certains sortent du bois et puis réussir à envoyer du bois aussi.
On rappelle aussi que la Leaders Cup, on a les deux finalistes. On n'en avait pas parlé la semaine dernière, mais on n'avait pas le résultat.
Ça, c'est la grosse connerie.
Antibes, Souffel, on va pas revenir sur la pratique de Leaders Cup, mais en attendant, si Souffel l'emporte,
on est cuit, il n'y a que les 8 premiers qui sont qualifiés. Exactement.
Donc, il faudra faire gaffe.
Les 8, parce que le premier sort, ça ira de 2 à 8, plus Souffel qui serait 9e automatiquement.
Donc, du coup, c'est une place potentiellement.
Sauf si Souffel est dans les deux derniers. Alors là, je sais pas ce qu'il ferait, parce que normalement, si Souffel est relégable, pour l'instant, il y a Angers qui est très mal parti, et Aix-Maurienne derrière qui tient la corde, mais je pense qu'ils vont remonter, parce qu'Aix-Maurienne, ils ont fait une équipe qui tient un peu plus la route. Ils sont relégables, je ne sais pas si la place est maintenue. C'est la nébuleuse complète de la Ligue. Je vais vous en raconter une petite dernière là que j'ai appris récemment. Là, c'est plus la Ligue, c'est la Fédération Française de Basket qui octroie des points supplémentaires aux équipes qui sont en quart de finale, demi-finale et finale de la Coupe de France des clubs, la Coupe de France de la Fédération qui est réservée aux
clubs en dessous
de la N2, de la Pro B. Et donc, tu peux te retrouver avec des points supplémentaires en arrivant
dans
en finale,
ton championnat,
dans ton championnat, alors que ça n'a rien à voir, et alors que tu as des équipes qui ne peuvent pas disputer ce championnat parce qu'ils ont une équipe de niveau national 2, une autre en national 3. Tu vois, c'est une aberration complète. Ils mélangent des compétitions qui n'ont rien à voir entre elles pour octroyer des points. Tout ça pour qu'il y ait des équipes qui abandonnent pas la compétition et qui jouent le jeu alors que ça coûte une blinde et que c'est du grand n'importe quoi. Et franchement, j'aimerais bien qu'un jour il y a des gens qui se manifestent un peu. Là, j'ai fait un petit papier avec André Rostel là, qui a pris la tête des gentils frondeurs de la Pro B pour dire qu'il y en a un peu ras le cul qu'on galvaude de la Pro B, qu'on fasse voter des programmes de Pro B par des dirigeants de Pro A en leur donnant le double de voix lors des scrutins. Mais je pense que sincèrement, il est temps qu'un jour on dise voilà, on arrête les conneries. Il y a Frédéric Fort qui est aussi pas mal là-dessus. Voilà.
Très bien. Merci Philippe, on a été ô combien
Je reste encore un peu parce que j'ai envie de parler avec
justement. On s'accorde une petite passe de musique et puis on passe du côté pro au côté amateur ô combien important. ALM Basket Amateur, section amateur, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans quelques instants derrière une pause musicale qui va bien. S'agissait de
Goran Bregovic, qu'on a déjà vu sur des bandes originales de films, notamment.
Très bien. On fait enfin la part belle au club que nous recevons, à savoir l'ALM Basket d'Evreux, section amateur, parce que c'est vrai que maintenant c'est galvaudé, hein. on a la même appellation, mais pas pour du tout les mêmes pratiques, même s'il y a quand même des ponts communs, même si on utilise le même outil, le même objet, même si on utilise parfois les mêmes lieux. On parle bien sûr de la section LM, donc en compagnie d'Antoine Dufy qui est avec nous depuis le début de l'émission. Et nous sommes aussi avec François Baudard, le président du club. Bonjour François.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques instants. Vous n'êtes pas présent avec nous, on ne va pas rentrer dans les détails. Et, voilà, mais vous travaillez hors d'Évreux et c'est pour ça qu'on vous a au téléphone. Merci donc d'avoir quelques instants. François, on a pour habitude de présenter un petit peu davantage, en première partie pardon, le club, et après on revient un petit peu sur l'humain. On vous aura peut-être plus ensuite, mais on va profiter de votre présence pour parler du club. Vous êtes président vous-même depuis combien de temps au sein de la LM Basket?
Ah, ça fait... J'ai plus en tête justement la date exacte, mais ça fait bien 6-7 ans que je suis président.
D'accord, donc que vous avez Antoine comme l'un de vos salariés, ou pas?
Pas tout à fait, on peut pas dire que ce soit un salarié direct, parce qu'en fait c'est une mise à disposition
de
par
la mairie,
la ville.
D'accord, voilà. Donc ce club, il y a combien de salariés d'ailleurs, ou de gens en tout cas, et d'entraîneurs, éducateurs? Mais Antoine peut rebondir, il est avec nous au micro ouvert, s'il a peut-être des fois les chiffres plus en tête. Ouais,
on a deux animateurs, deux entraîneurs à mi-temps, je dirais globalement, mis à disposition par la ville.
On peut citer Bruno Châtiron. Voilà.
Bien sûr, Bruno Châtiron et Antoine Dufy, en plus de tous nos entraîneurs bénévoles.
Voilà. Ça représente combien de licenciés, le club de la LM Basket, du petit jusqu'au...
Antoine doit avoir les chiffres plus précis, mais on doit être à 200 licenciés, incluant les joueurs professionnels qui sont licenciés chez nous.
D'accord. C'est ça aussi la petite aparté.
Ouais. On oscille entre 190 et 200 à peu près.
À partir de quel âge déjà, Antoine, on commence à la LM? Poussin, c'est quoi? C'est quoi les
non,
sections
non, non,
maintenant
on...
C'est U...
Alors oui, c'est U7, on va dire, si on attaque le baby poussin. Donc c'est 7 ans, à partir de 7 ans. Voilà. Notre plus jeune licencié, je crois que c'est un nom assez connu, il s'appelle Grégory Da Silva.
D'accord. Voilà. Donc c'est à partir de 7 ans à la LM qu'on peut signer.
Ouais, c'est ça.
Donc ça fait de vous quand même, mine de rien, président et Antoine, le plus gros club du département en termes
de licenciés. Non, parce que nous, on fonctionne qu'avec du basket masculin. Donc voilà, on ne peut pas se comparer avec les clubs qui intègrent le basket masculin et féminin. Voilà. Donc nous, on ne fait que du masculin. Donc,
Si on considère que l'effectif masculin, oui, effectivement.
Oui, on doit être dans les premiers si on considère que le basket masculin.
Alors les entraînements, on imagine que c'est du lundi au vendredi, qu'il y a les matchs au week-end, mais ça, on sait à peu près combien d'équipes, combien de sections ça représente, président ou Antoine?
11 équipes.
Ouais. 11 équipes, d'accord. Donc de 7 ans à U7 à...
De U7 jusqu'au senior du dimanche matin, de la Nationale 3.
Et à la Nationale 3, exactement. Qui est l'équipe élite, ouais, entre guillemets, de la section amateur.
Oui, on peut dire ça. L'équipe première de la LM Évreux évolue en Pro B.
Alors, François, on se demande toujours, moi, pour vous connaître un petit peu de vue, je crois que on cherche toujours à savoir aussi comment ça se passe. On ne va pas entrer dans la vie détaillée du budget, du financement, mais il faut des recettes propres. Comme nous, Principe Actif, une association, il faut, voilà, on dépend de certaines subventions, d'aides de l'État ou de la municipalité. Mais on trouve aussi des systèmes, comment dire, alternatifs. On trouve des moyens de récupérer un peu de sous. Ça se passe comment du côté de la LM? Il y a la buvette, par exemple, des matchs pro, c'est pour la section amateur, ça, pour entrer des sous?
Oui, donc là, pas intégralement, on partage les bénéfices avec les professionnels. Comme source de financement, j'ai une association, classiquement, les subventions des institutionnels, plus ces rentrées de licence. Donc pour nous, le fait de pouvoir tenir la buvette, c'est une source non négligeable de revenus. On a aussi la chance parfois d'avoir quelques sponsors privés. On a assez bon partenariat avec McDonald's qui parfois nous aide, je dirais, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de boucler les budgets. Ça devient même impossible parce que on a d'une part des subventions institutionnelles qui sont régulièrement à la baisse, et des exigences réglementaires de la fédération qui génèrent des coûts, qui eux sont éternellement à la... Donc à un moment, on a dépassé notre point d'équilibre il y a déjà plusieurs années, et depuis, on est toujours dans le rouge à la fin de l'année, donc c'est là que parfois McDonald's nous donne un petit coup de pouce pour boucler le budget, mais ça devient... mission impossible.
Ouais, parce que on a conscience, comme tout club hébroïcien, ou en tout cas tout club associatif, hein, il faut des moyens pour emmener les jeunes dans les rencontres à l'extérieur. Il faut les habiller. C'est des tenues, c'est l'entretien aussi du matériel. D'ailleurs, vous appuyez, vous, François ou Antoine, sur beaucoup de parents bénévoles qui vous aident le week-end à emmener les joueurs à faire l'étape de marque, où c'est très dur maintenant aussi, c'est une réalité de fédérer et de mobiliser.
Ah bah, le bénévolat en règle générale, donc nous on est impacté comme tout le monde. François il l'a dit, on a un poste de salarié en gros, parce qu'entre Bruno et moi ça fait un poste. Donc forcément on peut pas véhiculer ou entretenir 11 équipes pendant une saison avec deux personnes. Donc il y a énormément de bénévoles qui interviennent. Voilà, depuis de très très longues années, je crois que Philippe pourrait le confirmer à mon avis. Oui, non, mais on dépend des bénévoles, comme tous les autres clubs, évidemment.
Alors c'est assez particulier aussi, François, parce qu'on est obligé de faire le parallèle. Bonjour, je m'appelle François Baudard, je suis président de la LM Basket. Je ne sais pas ce que ça a eu comme impact sur certaines discussions, mais ah oui, mais comment ça, vous êtes président de... comment ça se passe à la mairie? Je veux dire, ils arrivent à dissocier, à faire la différence? Est-ce que le fléchage des subventions et autres, parce qu'on sait que la LM Pro est grandement appuyée, peut-être même encore plus dans l'avenir proche par la municipalité actuelle, ça se passe comment ça, Philippe? François, pardon.
Non, je pense que les institutionnels, la municipalité en tête, sait très bien comment sont gérées les associations et sait faire la part des choses entre les professionnels et les associations. Je ne pense pas que le problème soit là.
On n'est pas lésés non plus.
Pardon ?
Vous n'êtes pas lésés non plus.
Alors, on n'est pas lésés. Non, on n'est pas lésés. On n'est pas directement lésés par les institutionnels sur ce point de vue-là. On serait plus lésés par rapport au sponsoring privé. C'est assez délicat d'aller, enfin à la fois léser et aider, je dirais, parce que c'est assez délicat d'espérer pouvoir obtenir des sponsoring privés, étant donné que je dirais, l'équipe professionnelle les capte tous. Donc après parfois, par contre, effectivement, les pros, je pense à McDonald's, sont aussi la support pour nous, dans le sens où les pros peuvent aussi aller voir un sponsor privé, pourriez faire un petit quelque chose pour l'association. Donc, ça pourrait, voilà. Mais non, par rapport aux institutionnels, ils font bien la part des choses. Mais les budgets sont en baisse de façon drastique et récurrente. Quoi. C'est ça le gros souci.
Ouais, une petite question, François. Salut, c'est Philippe. Ça va? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a le fonctionnement entre l'amateur et le professionnel. Ça vivote, mais ça ne vit pas vraiment ensemble. Vous n'avez pas envie un jour de vous mettre tous autour d'une table et d'essayer de voir comment chacun pourra s'y retrouver, de faire fonctionner, parce que moi je connais Antoine depuis de nombreuses années, Bruno aussi, ce sont des éducateurs.
On n'en a pas parlé de leur qualité, mais
voilà, ça fait des années qu'ils bossent, qu'ils sont reconnus partout, qui pourraient apporter beaucoup au niveau notamment du centre de formation qui a été créé. Or, ils ne travaillent pas du tout dessus, hein, sauf à dire de bêtises.
Bruno intervient.
Bruno intervient un petit peu, ouais. Mais bon, donc, et puis on se dit qu'il y a une époque quand même, on sortait régulièrement des jeunes joueurs et tout ça, et là, on n'en voit pas vraiment beaucoup. On en fait revenir, mais on n'en voit pas beaucoup.
On ne peut pas les garder. Ça, c'est
un vrai problème, ouais.
C'est un vrai problème, mais moi, je m'occupe d'une catégorie pour les U15, et sur les 10 dernières années, on a quand même envoyé 4 ou 5 mecs au centre fédéral.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, on en sort. Simplement, après, leur proposer une continuité, c'est pas évident. Voilà.
Ouais. Il y a plusieurs questions là, dans ta question. Sur la relation avec les professionnels, je pense qu'aujourd'hui, déjà, à la base, une relation entre un milieu associatif et un milieu professionnel est assez compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt pas mal. Il y a parfois pu y avoir, par le passé, des mésententes, des incompréhensions. Je pense qu'aujourd'hui, on est assez en phase dans la limite de ce qu'on peut faire. L'autre chose, c'est que c'est difficile d'établir des choses dans la durée, dans le sens où les structures associatives sont assez pérennes. Moi, je suis président depuis 7 ou 8 ans, mais avant ça, j'étais vice-président. Ça fait 40 ans que je suis au club, ça fait 25 ans que je travaille pour la sauce. Les structures professionnelles sont renouvelées régulièrement. Bon, là, on a la chance d'avoir un entraîneur qui est là depuis un certain temps, mais en général, les entraîneurs, les dirigeants et les joueurs, enfin, tout l'effectif est renouvelé très régulièrement. Donc, c'est difficile de pérenniser cette relation dans la durée. Sachant qu'aussi, On, le basket a une particularité, c'est que les réglementations changent tous les ans, pour ainsi dire. Donc un jour, on fait un centre de formation, l'année d'après, on n'en fait plus, ouais, puis on remet, vrai. Puis on change les modalités. Donc c'est très difficile d'avoir de construire dans la durée. Quoi.
Ça, c'est vrai.
On a eu le président Rostol il y a un mois et demi, de manière très sympathique et jovial comme un peu le personnage transpire, qui était présent et qui laissait entendre qu'il y avait quand même davantage de contacts, comme vous venez de le préciser, qu'il y avait en tout cas des envies, parce que ça tient aussi à l'humain, c'est-à-dire que des fois...
Ça s'est confirmé, on était ce matin ensemble avec Elsa Toffin, avec André Rostol.
Je pense que c'est essentiel, parce qu'effectivement, à un moment, ça sert à rien de se regarder en chien de faïence. Je pense que le but, c'est vraiment que tout le monde a la même envie.
Ouais, parce que le président Rostol, il regarde pas la section amateur de haut.
Déjà, il adore, avant d'être dans le secteur professionnel, il suivait le basket amateur, parce qu'à longtemps, Evreux a été dans le secteur amateur, il a suivi ça. Et je pense qu'effectivement, il aime bien voir les gamins jouer, enfin voilà, même si il a un emploi du temps de golfeur maintenant qui l'empêche d'aller dans les salles, mais c'est quelqu'un qui aime le sport et tout ça, et qui aime les jeunes. Donc je pense que oui, lui, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui, ça c'est certain.
Ah, moi j'ai de très bonnes relations avec André, il n'y a aucun souci. Après, on ne fait pas ce qu'on veut, quoi. Ouais. Notamment par rapport au changement et les évolutions de réglementation.
Ouais, c'est hallucinant.
La fédération fait beaucoup de choses tous les ans pour perturber toutes les relations
Au sein de l'émission, on relève régulièrement par rapport à l'équipe élite.
On charge beaucoup la Ligue, mais on ne charge pas la
Fédé. On oublie que la Fédé, elle vous aide pas avec ses histoires de centre de formation, espoir, et puis on arrête, et puis on reprend.
Et puis les techniciens donnent leur avis, mais bon, c'est les politiciens qui décident à la fin, donc forcément, on a toujours les fesses entre deux chaises.
Je crois que François, il a dû décider en l'espace de, je ne sais même pas si c'est une journée, de savoir s'il pouvait inscrire une équipe en National 3.
Exactement. Voilà, c'est ça, vendredi soir, fin juin, on nous a appelé à midi en me proposant d'évoluer en National 3. Et puis il fallait donner sa réponse avant 17h. Donc voilà.
C'est quoi ça?
Bah par des désistements et des jeux de chaises musicales. Mais bon, voilà, c'est pas simple de suivre les directives de la fédération. C'est pas toujours simple, quoi.
François, avant de, parce que bon, c'est pas simple. Vous êtes, on vous prend à partie. Juste, je l'avais pas évoqué. Généralement, on le dit un petit peu en préambule, mais là, c'est pas simple de faire deux étapes en une avec vous pour vous avoir en notre compagnie. Les valeurs, vous qui vous touchent, ou en tout cas que à travers les salariés, à travers des super encadrants que sont Bruno, Antoine, et puis les autres bénévoles qui tournent dans le club, les parents, enfin les valeurs, vous qui vous plaisent, parce que comme vous l'avez préciser, vous êtes au club depuis plus de 40 ans, vous avez été joueur, vous avez été bénévole déjà très tôt, vous en êtes le président aujourd'hui. Les valeurs, les mots forts, les mots clés, s'il y avait des phrases comme ça, ou une phrase comme ça qui vous semble importante à l'ALM Basket, il y en a une, il y a un précepte, il y a une philosophie?
La valeur, c'est la passion du sport, et c'est l'envie de faire quelque chose ensemble et de se faire plaisir, quoi. C'est le plaisir le plaisir dans la compétition.
Parce que c'est quand même un quartier populaire, un quartier mixte, la Madeleine, où bon nombre de joueurs sont quand même issus du quartier, mais aussi ça vient de Louviers, ça vient de Pont-Tonnerre, je le sais bien, Gaillon, ça vient du département, puisque c'est quand même le club phare, même en termes de formation. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Vos salariés sont bien dans la continuité de l'état d'esprit du club, en fait.
Ah bah, tout à fait. Je pense qu'avant d'être des salariés, c'est des passionnés de basket comme vous, mais comme moi, comme vous et moi.
Et puis, il faut qu'ils passent quand ils arrivent à Jean Moulin, il faut qu'ils passent par l'épisode Philippe Levillain, qui est quand même.
Il y a une légende à Évreux aussi,
c'est une légende.
C'est vrai que c'est une légende.
Quand tu es adoubé par Philippe, là, tu peux commencer à jouer. Donc,
on le voit pas, mais on fait là-haut, dans la radio.
Si tu l'es pas, tu le ressens vite.
Ah oui, c'est ça, tu le ressens. Très, très bon arbitre.
Très, très bon arbitre.
On a la chance d'avoir. Alors mais là-dessus, je ne peux que remercier la ville. Je dis pas la municipalité actuelle, parce que ça date de bien avant. C'est peut-être continué aujourd'hui. J'espère que ça sera perpétué à l'avenir. C'est qu'on a la chance d'avoir, on est un peu favorisé, je dirais, au niveau basket à Évreux, c'est clair, et à la Madeleine, le fait d'avoir à disposition deux membres de personnel de la ville qui sont
mis à dispo.
Plus mis à dispo et qui, par bonheur, sont très compétents, quoi.
Ouais, mais ça, on va développer dans...
Sans ça, on aurait du mal à vivre, quoi, et à survivre. Au niveau de compétition auquel on prétend jouer.
Très bien. On va se... Merci François, on va s'accorder une mini pause de musique avant de conclure avec Antoine et peut-être en votre compagnie, on va voir dans quelques instants. Ce qui est sûr et certain, mesdames et messieurs, c'est que si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en compagnie du président de l'ALM Basket section amateur, pardon le président ici, c'est pas du tout le rabaisser ou le... Mais il fallait le préciser. Voilà, et Antoine Dufil, un des gros grands éducateurs de ce club. On s'accorde une mini pause de musique, on revient dans quelques instants. Philippe, au revoir toi.
Salut les gars.
Merci Philippe, à lundi prochain, il aura été à Boulazac, il nous racontera samedi ce qui s'est passé.
Et l'auberge de la truffe aussi. Super.
D'accord. Et le titre demain de l'article ? Il n'est pas arrêté.
Ah, si, il est arrêté, sa mère. Il faut plus le lire que l'entendre. Mitonné de bof à l'américaine. Bof, B-O-F.
D'accord. Eh ben, on est à demain matin. Dans le mardi, c'est l'heure info. Merci Philippe, à tout de suite François. On s'accorde une pause de musique, pardon Guy Moquet, à tout de suite. Hold up, son. Word. Yeah. To all the killers and the $100 billers. Yo, villains. The phone, man. Okay. For real, because who ain't got no feelings. Feelings. I got this. Just watch my back. I got your front. Bro. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. The mark comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share. For all those who wanna profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land. We be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face. You're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my teammate. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Another nigga deceased, another story is told. It ain't nothing really. And yo, done sparked the Philly. So I could get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know. Go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, you feel a burning sensation. Getting closer to God in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Sunday show. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turned nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He just a shook one. For every rhyme I write, it's 25 to life. There was so much to get to trust, safeguard of my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, if you don't play, I don't got time for your petty thinking mind. Son, I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And once the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I going to burn the hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake jazz, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal minds thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm bucking, think I'm always out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. Cause long as I'm alive, I'ma live illegal. And once I get on them, I put on all my peoples. React with spillage like Max, I hit your domo. When I roll up, don't be gon' sleep because I'm free.
Sonny shook, cause ain't no such thing. It's halfway crooks, scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that it comes with guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He's just a shook one.
dollar bill in line.
Mobb Deep, Shock Ones, 1995, issu de l'album The Infamous, du gros, du lourd, du Queens, from USA.
J'ai une question comme ça là pour reprendre un peu à froid et je vous la pose à tous les deux, mais plutôt à Antoine quand même. Le lien basket et hip-hop, c'est inévitable ou
Oui, il y a pas le choix, c'est comme ça, c'est né comme ça, donc. Ouais. Ouais, non, il y a des connexions depuis toujours. Ouais. Ça date pas d'hier. Hein. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Hein.
Il est vrai. C'est vrai que les grands joueurs de basket américains, ils écoutent plus ce genre musical-là que de la country. Même si ça arrive, certains, on se rappelle de Karl Malone, qui était fan de country, je crois, et qui collectionnait les camions. qu'ils n'écoutent la variété ou la pop chiante.
On a même établi des règlements en NBA pour éviter que les basketteurs rappeurs ne s'habillent n'importe comment. Donc,
ouais. Et puis, on rappellera quand même que Tony Parker s'est essayé quand même. Et c'était pas terrible.
Ouais, il est meilleur au basket.
Allez, deuxième partie, normalement, qui aurait dû être plus prolifique, mais on a. Alors maintenant, c'est une nouvelle horaire, hein, c'est officiel, mesdames et messieurs, dames. On n'a pas rajouté un quart d'heure dans le vent, on est vraiment sur un temps d'antenne d'1h15, donc tout ce qui va se dire là maintenant, c'est effectivement du rap. Mais à culpa, mais comme dit l'ami Guimauquet, on est souvent dans la prolongation. Antoine, comment on fait si on veut se rapprocher de la LM Basket? Vous vous entraînez tout au long de la semaine, je crois, à la salle Jean Moulin?
Voilà, exactement. Tous les soirs, à partir de 17h jusqu'à 22h, vous trouverez du monde au gymnase Jean Moulin, rue Jean Moulin.
De quelle heure t'as dit? 17?
De 17h ouais. Jusqu'à 22h, puisque moi je dois arriver tous les soirs vers 17h, donc vous trouverez du monde forcément. Vous pourrez en trouver un avant aussi, mais à 17h, vous êtes sûr.
Pour
un contact, pour prendre n'importe quelle information, le mercredi également, voilà. De midi et demi jusqu'à 22h, on sera là. Ouais.
Si vous avez un voisin, un neveu, une nièce, neveu en l'occurrence.
Qui fait 2m03 à 12 ans.
À 12 ans, on est intéressé, c'est ça?
C'est exactement
on en est un peu là. Ou alors il était en collège high school aux États-Unis, puis il vient de débouler avec son papa à la base américaine. C'est pareil, c'est intéressant.
Non, mais il faut préciser que on ne recherche pas que ça non plus. Quoi.
Bien sûr.
Mais on reçoit des fois des gens qui pensent qu'à moins de 90, on ne peut pas aller faire du basket à la Madeleine.
Pas du tout.
C'est pas du tout le cas. Voilà.
Ouais. Ça se passe comment une adhésion, les tarifs, Antoine, tu peux nous dire, c'est
oui, mal demandé. Donc à moins de 11 ans, vous paierez 90€ pour la cotisation. Après, jusqu'à moins de 15 ans, vous paierez une centaine d'euros. Puis après, pour la catégorie U17, jusqu'à senior, vous paierez 110€.
D'accord.
Pour toute l'année, sachant que ça inclut quand même un abonnement pour aller voir l'équipe professionnelle, exactement.
Bien vu. Les couleurs, c'est les mêmes que l'équipe pro d'ailleurs, c'est jaune, c'est bleu.
Ah oui,
bleu,
oui, c'est jaune. Exactement, jaune et bleu, exactement pareil que que l'équipe pro B. Ouais.
On a vu, parce qu'on parlait avec François Baudard, ton président, et toi, tu, à ce moment-là, tu n'es pas intervenu, mais je t'ai vu lever les yeux en mode positif ou négatif, justement, j'aimerais que tu le traduises, quand elle a évoqué compétition et plaisir.
Oui, voilà, nous on veut donner du plaisir dans la compétition. Voilà, donc on fait de la compétition.
L'envie, c'est
alors,
quand même
des. C'est pas que du très haut niveau, mais ouais. Voilà.
Amener quand même le jeune à avoir essayé d'envie de gagner de manière collective, amener sa pierre à l'édifice.
Mais nous, on veut qu'il progresse par rapport à son potentiel à chaque fois, mais voilà, nous on veut qu'il progresse. On va pas aller faire des années dégoûtées d'anniversaire à chaque fin d'entraînement ou ce genre de choses. Voilà, nous. On fait du basket, on vient, on s'entraîne sérieusement et puis on progresse. Voilà.
Alors on rappelle aussi, hein, ça va peut-être être plus facile pour toi de parler de lui parce qu'il n'est pas là. Bruno Chatillon, c'est une figure emblématique du toute discipline confondue. En l'occurrence, là, c'est pour le basket, de ces gens qui marquent un club, qui tu sais, qui sont une empreinte physique. Tu y contribues, mais c'est plus difficile parce que je te demande pas de parler de toi. Bruno, voilà, c'est l'entraîneur des jeunes emblématique à Évreux avant que tu le rejoignes. C'est un personnage qui pourrait, dans l'absolu, pourrait prétendre à des gestions d'effectifs de haut niveau. Mais qui lui préfère le jeune de haut niveau presque en fait.
C'est un peu ça, ouais. Alors je sais, j'ai plus les dates quand il est arrivé sur Évreux, mais ça doit être aux alentours de 95 ou quelque chose comme ça. Oui, même avant ça, je pense. Et puis il a tout connu. Donc voilà.
Il a même coaché, je crois, dépanné
la évidemment, parce qu'il a été assistant du temps de Chris Singleton, et quand ils ont coupé Chris, il a pris en charge l'équipe professionnelle qu'il a maintenue en Pro B.
Et puis toujours d'incroyables résultats quand même avec au départ des jeunes de d'Evreux ou des alentours, Gravigny, Saint-Cé, on pense bien sûr, mais c'est vrai que maintenant on frappe à la porte et Antoine, tu vas pas nous mentir en disant que ça vient de Pont-Audemer, ça vient de Gaillon, ça vient de Louviers.
Bah, oui, exactement. À partir du moment où on veut faire du haut niveau chez les jeunes, bon bah voilà, on sait que financièrement, c'est un peu. Nous, on a la chance de pouvoir le faire jusqu'à présent. Donc voilà, c'est pas donné à tous les clubs de pouvoir s'inscrire en championnat de France U15, je pense, ou U17.
Et des résultats chaque année en plus dans l'absolu.
Oui, il y a quelques résultats en plus. Ouais. On a réussi quand même sur les 10 dernières années à placer 3 ou 4 joueurs au centre fédéral. Donc voilà.
Alors, ouais, c'était quelques... ça aussi la question. Alors ils viennent à la LM, ça se passe bien. Ils prétendent à continuer le basket ou ils sont repérés. Je pense que toi t'as des quand on est l'entraîneur, on a des échanges avec le pôle ou le comment s'appelle cette structure, le pôle espoir régional qui se situe à Rouen. Donc il y a des échanges. Ouais tiens moi j'ai un jeune que il me semble bien, faudrait l'étudier, faudrait voir et tout. Donc c'est l'unique parcours où il y a aussi
non, l'INSEP c'est pas
s'est terminé.
C'est... Non c'est pas l'unique parcours. C'est-à-dire qu'à partir de la catégorie U15 voire même U13 pour de très jeunes joueurs mais qui ont un potentiel
énorme
intéressant. Vous pouvez pas être repéré et intégrer la structure du pôle espoir à Rouen. Voilà donc là vous êtes interne à Rouen. Au CRJS de Rouen, de Petite Couronne. Et puis vous revenez jouer le week-end dans votre club de départ. Voilà, donc ça c'est jusqu'à la catégorie U15. Et puis passer la catégorie U15, vous intégrez soit un centre de formation de Pro A, de Pro B, ou le centre fédéral pour les 12 meilleurs.
D'accord, voilà. Et puis on peut prétendre après jouer en équipe de France. C'est déjà arrivé d'ailleurs des jeunes de la LM
Évreux. Oui, bien sûr, on en a encore un qui part en Turquie et qui est licencié à la LM Évreux, qui s'appelle Patrick Gomis. Qui était U15 chez nous jusqu'à l'année dernière, et puis qui a intégré le centre fédéral, et puis qui part en Turquie là, au championnat d'Europe
minime
au mois de février.
Et quand ils sont au centre fédéral, ces jeunes-là, ils jouent encore ils sont dans d'autres clubs. C'est pas un club, le centre fédéral.
Si,
ils ont une équipe.
Voilà, d'accord. Il y a une équipe qui représente le centre fédéral. Donc,
et qui joue contre qui, dans quelle compète?
Ils jouent contre des cadets pour ceux qui sont en première année, donc ils jouent contre des U18, exactement. Et puis, pour les deuxième et troisième années, c'est-à-dire les U17 et les U18, jouent en National 1.
Ah donc, ça les confronte déjà des vieux briscards et à des joueurs fort intéressants. D'ailleurs, des exemples, on peut citer quand même. Bon, il y en a un qui est marquant, c'est Joseph Gomis. J'en parlais ce matin en matinale. Enfin voilà, c'est en plus un mec d'Evreux, un jeune joueur d'Evreux qui a été formé sous l'ère Tonton, mais qui a dû avoir aussi Bruno.
Sur sa première année.
Comme entraîneur. On pense donc à lui, on pense à l'époque des Espoirs où il y a eu effectivement pléthore de joueurs qui ont connu le haut niveau, et on pourrait parler d'Olivier Saint-Jean qui est devenu Tariq Abdoulouane, mais aujourd'hui encore, là, tu me parlais tout à l'heure d'un jeune joueur, par exemple, qui est au Havre.
Oui, Gauthier Denis, qu'on a eu 3 ans chez nous, enfin qui vient de Louviers à la base, faut pas le
oublier. Donc Louviers. A pris le basket ailleurs, mais qui a parfait son jeu à la LM.
Avec la structure du Pôle Espoir aussi à Rouen, et puis qui après a intégré le Centre Fédéral, et puis qui là fait le banc.
En proie quand même, STB.
Voilà. Il joue en Espoir, mais il fait le banc de la proie.
Florian Thibodeau.
Florian Thibodeau.
Alors lui aussi, un joueur que tu avais eu longtemps, toi.
Je l'ai eu 2 ans. Lui, il a pas fait le Pôle Espoir. Par contre, il a fait le Centre Fédéral et puis après.
Donc là, les effectifs. Voilà, un joueur majeur d'une équipe de National 1, l'élite d'ailleurs, du haut du classement.
Il a même fait Pro B à Boulazac, à Quimper.
Et puis on pourra en citer sûrement d'autres exemples, mais c'est aussi une vraie école de basket, même si je pense que le sport pour certains. Peut être aussi une vraie école de la vie.
C'est avant tout une école de la vie, parce que des joueurs qui intègrent des effectifs pro, vous en avez un tous les...
Ouais, tous les 36.
Bah, pas tous les 36, mais tous les 10 ans, ouais. Un vrai joueur qui démarre comme Joseph tout petit.
Quel discours on tient aux jeunes en général, quand ils ambitionnent de faire du basket leur vie? et qu'en même temps on sait que voilà, c'est peu d'appelés, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Est-ce qu'il y a un discours commun à tous les jeunes ou ça s'adapte en fonction du môme, même si c'est déjà pour certains des adultes, quoi?
Bah, il faut l'adapter, il n'y a pas le choix. Bon, après les gamins ils sont pas fous, hein, quand ils intègrent la structure à Rouen du Pôle Espoir, bon, ils savent déjà qu'ils ont un peu plus de chance. Ceux qui n'y sont pas, bon, faut pas rêver. Et puis voilà, il faut leur montrer que des exemples comme Joseph, qui a démarré en poussin chez nous et puis qui a été international, bah voilà, ça fait déjà un petit moment qu'il est plus chez nous, Joseph. Donc bon,
il y a
vraiment peu d'élus, quoi.
Il y a un discours pour les jeunes, mais il y a un discours pour les parents peut-être aussi, parce que des fois il y a une forme de pression ou peut-être d'attente qui est disproportionnée.
D'attente. Les gens pensent que bah tiens, moi mon fils il ferait bien professionnel de basket. Bon, ça se passe pas toujours comme ça. Voilà. Il y a quelques contraintes après, un peu de travail à faire et puis un peu de talent à avoir aussi, qui n'est pas facilement détectable tout de suite, quoi.
D'accord. Ouais, c'est plutôt clair et intéressant. D'ailleurs, là, actuellement, l'équipe que tu gères, toi, et que... Enfin, il y a beaucoup d'équipes que tu gères l'ensemble. Mmh. Tu es à la salle tous les week-ends en dehors du soir. Mais tu... ton équipe majeure, entre guillemets, c'était minime... Enfin, t'es U15 nationaux, c'est ça?
C'est ça.
Bruno Châtillon, lui de mémoire, c'est cadet nationaux.
C'est ça, U17.
U17, merci. Mmh. Ces deux équipes-là, déjà, ont réussi une super début de saison, là, sur la saison 2014-2015, puisque vous avez été... Il y a toute une histoire de poule, de pré-poule forte ou faible. Comment on explique ça?
Bah, en U15 élite, vous avez 48 équipes sélectionnées, très difficilement d'ailleurs, sur dossier. Et puis après, vous avez donc des poules de 6. Et puis les trois premiers de chaque poule passent en poule forte, donc en groupe A.
Ou poule faible.
Ou poule faible en groupe B, exactement.
Et donc cette année, vous vous êtes retrouvés, ces deux équipes-là, c'est pas tous les ans, en poule forte?
Non, c'est pas tous les ans, surtout chez les U15. Bon, chez les U17, on a l'habitude de passer en groupe A avec les U17. Mais en U15, ouais, on a réussi à passer face à des équipes quand même intéressantes, parce qu'il y avait dans notre poule Nanterre, qui est quand même une équipe régulièrement en groupe A. Et, bon,
voilà. Donc des résultats satisfaisants, même si malheureusement des défaites ce week-end pour les deux. Hein.
Oui, malheureusement.
D'un côté Rouen et de l'autre pour toi les U15. Et U17, c'était face à Saint-Quentin, ouais. C'est ça.
À l'extérieur quand même.
À l'extérieur, bon, ouais. Voilà, à noter. Mais en tout cas, un parcours plutôt intéressant pour ces jeunes et même une chouette expérience en vrai.
Ah ouais, super intéressant.
Parce
très,
que
très bon groupe,
tu peux nous le dire aussi, hein, je crois que de mémoire, hein, déjà en U15 ou U17, on a affaire parfois à des golgottes, hein, des gamins, ça tourne autour de 2 mètres, ou alors des machines à shooter, ou des dribbleurs nés.
Non mais je parle juste avant de Patrick Gomis, qui a intégré le centre fédéral, il fait 2m04. Hein, donc,
d'accord, et là
avec moi, il faisait déjà 2m01. Donc,
à quel âge?
Bon, lui, il les faisait déjà à 13 ans, hein.
Voilà. Alors on pourrait développer, la taille ne fait pas tout, la taille peut aider, ça ne doit pas être un frein, mais dans l'absolu aussi, des fois, tu as eu affaire à des grands physiques, mais qui étaient complètement pataux, donc il a fallu complètement apprendre les mouvements du basket.
C'est exactement le cas de Patrick. Exactement. Puis là, j'ai l'inverse, j'ai le Anthony Da Silva, qui est un poste 1 et qui a beaucoup de talent aussi.
Ouais, le fils de Philippe.
Le fils de Philippe, oui.
Voilà, le fameux Philippe qui, on rappelle, joue à Caen en National 2. Voilà, et qui a fait le bonheur de la LM Évreux version pro. Antoine, toi, t'as aussi longtemps joué au basket ou tu n'as fait que ça, toi, dans ton passé? Parce qu'on aime bien demander un petit peu d'où on vient, du sport.
Non,
et
non, j'ai une tare, j'ai fait du hand avec un ami à l'époque.
D'accord, équipe de l'heure de mémoire, hein, comme ça. Et du tennis?
Ah, j'ai fait beaucoup de tennis, ouais.
Ça a été ton truc, ça.
C'était le premier sport, avec un ami commun aussi, d'ailleurs.
Ouais. Et puis le basket aussi, mais pas que l'ALM, tiens.
Non, j'ai commencé, je sais pas si je dois le dire, parce qu'il y en a certains qui vont me railler un petit peu. Mais
il faut dire, la vérité vraie.
Ouais, j'ai démarré à l'EAC Basket.
Voilà, ouais. Et il y avait assez marrant.
Il y a quand même une vieille guerre ACLM.
Non, c'est pas vraiment une guerre.
Il n'y a pas vraiment eu de guerre, parce qu'il y a très très longtemps. Mais après, ça c'est à un moment donné, à l'ALM, c'était plus possible de réunir le basket masculin et le basket féminin, parce qu'il n'y avait plus les créneaux, il n'y avait plus tout ça, donc il a fallu choisir, en fait. Et donc la Madeleine a choisi de faire du basket masculin, et le AC s'est plus orienté vers le basket féminin. Donc il n'y a pas de rivalité. La preuve, c'est que l'entraîneur de l'équipe de la Nationale 3 à Évreux,
ouais, c'est celui de
a été formé en tant qu'entraîneur et joueur à l'ALM, et puis coach à l'EAC et à l'ALM en même temps.
Ouais, c'est cool ça. une belle idée. Antoine, alors bon, on l'a dit, Bruno, toi, vous êtes donc des passionnés, des mordus, des compétents. Au-delà de ça, c'est là où on est extrêmement heureux et où il faut quand même le souligner. On a vraiment deux très bons entraîneurs éducateurs. Parce que d'ailleurs, on se dit quoi ? On dit plus. Toi, tu te sens plus entraîneur, éducateur, parce que tu entraînes, tu coaches aussi, parce que des fois, tu mets en place des tactiques et tout durant la rencontre, mais tu as les entraînements tout au long de l'année, puis tu te sens plus éducateur, entraîneur ou à égalité
Moi, quand tu es entraîneur de jeunes, tu es forcément éducateur. Après, quand tu t'occupes d'équipes seniors, tu as peut-être un peu moins de côté éducateur. Moi, je m'occupe des jeunes, donc forcément, que ce soit Bruno ou moi...
Entraîneur-éducateur.
Ouais, on ne peut pas dissocier les deux. Déjà, on est éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à la ville.
C'est donc, joli, voilà, jolie appellation.
C'est la dénomination exacte.
D'accord. Et pour finir, peut-être les deux, hein, tu me dis. Un souvenir marquant, toi, dans ton passé récent ou un peu plus ancien d'entraîneur, et un doux rêve, ou les deux. Est-ce qu'il y a pour toi une année ou un résultat, une rencontre en particulier, t'as grandement marqué? Je parle bien dans ton cadre d'entraîneur, non pas des pros, on parle bien sûr de ton entraîneur au sein de l'ALM. Est-ce que t'as une année ou un match ou un souvenir marquant ou un retour peut-être d'un jeune qui t'a touché, qui t'a marqué
Ouais, moi, c'est plus ça. Voilà. Moi, je prends du plaisir quand il y a des anciens minimes, parce que moi, je m'occupe plus particulièrement de la catégorie minime, enfin, des U15. Qui prennent des nouvelles, qui te rappellent, qui répondent à tes messages dans les 5 minutes après. Voilà. Ça, j'aime bien quand il y a un retour comme ça.
Ça, c'est les choses qui te font plaisir.
Ouais. Après, il y a d'autres moments. Hein. J'ai eu les seniors avant et on a vécu trois saisons.
Toi, t'as vécu une super aventure. Ouais,
avec des mecs super.
Deux montées, c'est ça, en 3 ans?
Ouais, deux montées. En 3 ans, il y a deux montées, une descente quand même. Mais ouais. Bon. Mais ouais, c'était super. Ouais, une super équipe, avec une bande de potes qui était super. Ouais.
Et puis, un doux rêve, ce serait quoi? Ce serait que, par exemple, ton club ait 4 éducateurs salariés, que vous soyez tous les ans en poule forte, que vous ayez de plus gros moyens. Quel serait, toi, si tu avais une baguette magique, le souhait que tu aimerais, ou plusieurs, hein, d'ailleurs?
Ouais, comme ça,
une voiture de fonction? Un téléphone, un vrai téléphone payé par le club?
François, non, mais... alors. Non, un rêve, je sais pas si déjà tout le monde finit la saison en ayant pris du plaisir. Il y en a qui participent à des championnats de France, mais il faut pas oublier les autres.
Championnats, bien sûr, départementaux, régionaux.
Exactement. Si tout le monde prend du plaisir à la fin de la saison, c'est qu'on a réussi en partie le truc, quoi, en dehors des résultats, quoi, parce que on essaye à chaque fois de faire du championnat de France, mais après, on n'a pas un bassin de population qui est énormissime, donc. Voilà, quand on arrive à le faire, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les autres, quoi, parce qu'il y a 11 équipes en tout, il n'y en a pas que 2. On a beaucoup parlé des U15 élites ou des U17 élites, mais voilà, il y a tous les autres. Il y a les petits, il y a ceux qui viennent et qui prennent du plaisir à jouer, même s'ils ne jouent pas en championnat de France, quoi. C'est important.
J'aurais une dernière chose. Tout à l'heure, je t'ai demandé le lien entre le hip-hop et le basket. Je voulais te demander si, parce que dans ta voix, j'entends un peu Jacques Monclar, s'il y avait un lien entre basket et grosse voix.
Ah, je veux. Éducateur et grosse voix. Enfin,
éducateur, c'est sûr. Ouais.
Voilà, que ce soit sur un terrain de foot ou gymnase à Jean Moulin. Bruno aurait eu la même voix que moi, là, ce matin, je pense. Ouais, il faut l'être un petit peu, quoi.
Rien à voir avec le tabac, en tout cas, parce que Monclar, je crois qu'il ne peut pas à mort, et l'ami Antoine, pas du tout.
Pas du tout.
Ouais. Bah, écoute, on te remercie de ta disponibilité et d'avoir permis un petit peu d'amener en lumière ce club qui, dans l'absolu, n'en a pas besoin, mais nous, on ne l'avait pas encore fait, notre part à l'édifice, de mettre en lumière ce club ô combien intéressant qui est l'ALM Basket, section amateur. On avait reçu les pros étonnamment avant, alors que dans l'absolu, on aurait aimé faire l'inverse. Mais voilà, c'était une opportunité que d'avoir le président Rostol, par ailleurs sympathique comme tout, devant nos micros. Merci Antoine d'avoir représenté et de représenter fièrement les couleurs hébroïciennes et amicalistes de cette manière-là. On salue Bruno Chatiron, dont les qualités ne sont absolument plus à démontrer. En tout cas, si vous avez un doute, si vous avez un questionnement, n'hésitez pas, rendez-vous à la salle, vous verrez bien. Ça a envie que ça joue et oui, ça a envie que ça avance. Mais voilà, il y a vraiment de la compétence et du savoir-faire au sein de ce club et de cette association. On remercie encore aussi le président Baudard de nous avoir accordé quelques instants. Philippe Guinchard, maintenant, qui est devenu qui est un membre à part entière de l'émission, ami Guimauqué. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Antoine.
Bah, merci à vous.
Voilà, bonne continuation, de bons résultats. Et puis, voilà, du plaisir. Mais avec des résultats, on l'a bien compris aussi, ouais. c'est mieux. Et des acquis, voilà, pour progresser. Ouais. Le but, c'est d'aller de l'avant. Voilà, on peut préciser que la semaine prochaine, on restera du côté de l'ALM. Mais on changera
de tennis.
Ouais, plus petite balle.
Voilà, et avec des raquettes aussi.
Ouais, voilà, et qu'on utilise quelque chose pour taper dedans. Voilà.
On parlera tennis.
Très bien. Merci, ami Guimauqué.
Merci à vous.
Toujours un plaisir. Amis auditeurs, auditrices, la suite des programmes sur Antenne de Prince Actif aujourd'hui, hein, vous avez l'habitude, c'est une rediff à 15h. Radio Le Max, Mixture, Factory, puis on finira avec la 100e de It's Time. C'est pas rien. Voilà.
Allez, ciao. Bonne journée.
Avez une bonne journée. Merci encore, Antoine.
Merci.